Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Ce n'est pas avec un ni deux, mais bien trois hommes que je suis pour cet épisode événement. Et pas n'importe lesquels, j'ai bien dit événement. Chers auditeurs et auditrices, je vous présente les gentilshommes.
Bah oui, très... salut.
Yo ouais.
Salut.
Bravo. Non, mais, chacun a sa prononciation, il y en a qui disent gentilshommes, il y en a qui disent gentilhommes. Et
c'est
nous
validé.
on est dans la tolérance,
allez.
Chacun dit comme il veut, ouais. Tu vois. On va pas se prendre la tête.
Et bah c'est parfait.
Exactement.
Je dois vous avouer messieurs que je suis un peu impressionnée devant vous, Dan, Pascal et Conny. J'ai littéralement bingé vos épisodes cette dernière semaine, soit plus de 250 épisodes des gentilshommes depuis 2017, ainsi que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf. Et passer en tout bien tout honneur évidemment quelques nuits avec vous, enfin avec vos voix pour être précise. Bien que vos invités se défoilent et se mettent à nu au sens figuré, vous êtes sacrément pudiques les garçons. Mais ce n'est pas sans compter mon amour pour les choses bien faites et donc grâce à vos sous-entendus, silence qui en disent long parfois, private joke, n'est-ce pas Dan, et d'un travail acharné digne d'un enquêteur de NCIS, j'ai réussi à déceler d'ici, de ci, de là quelques traits de vos personnalités. Donc devant moi se trouve un Sagittaire séducteur et éternel insatisfait, un Balance charmeur pétri de doutes en quête d'amour et un amoureux cérébral qui ne s'arrête jamais de réfléchir. Chacun se reconnaîtra ou pas?
Je savais pas que t'étais Sagittaire.
Moi je me reconnais dans les trois. Non, on se reconnaît tous dans les trois.
Alors ouais, un peu, c'est vrai.
Un peu dans les trois, franchement.
Ouais.
J'ai été bluffé, je te jure. On s'est assis pour prendre un café. Elle m'a dit toi t'es ça, Dan il est ça.
Et j'hésite. Ouais.
Ouais.
Pas simple. Bref. Toutefois, j'espère qu'on apprendra un peu plus sur vous dans cet épisode spécial. Surtout que là, c'est un peu le moment triste de l'épisode. Le podcast Les Gentilshommes est terminé. Le dernier épisode a été diffusé le 23 février.
Ah bon? Je savais pas.
Ok,
tu
merci.
Écouter, c'est vachement bien.
Il faut
c'est
que j'écoute.
Très sympa.
Non, mais ouais, j'écoute pas assez.
C'est hyper émouvant.
Je savais pas qu'ils arrêtaient là. C'est ouf.
Genre le gars.
Oh, ils sont relous quand même à arrêter comme ça. Franchement.
Le comédien. À savoir que toi, Pascal, on peut continuer à t'écouter dans le podcast Dans le cœur des hommes que tu co-animes avec Arnaud et Pierre. Et comme tout artiste, tu as mis le projet à l'heure. On en dit plus, on n'en dit pas plus.
On peut en parler à la fin, c'est pas l'objet là.
Okay.
Quoi, mais...
Vraiment comme tu veux.
Non, pas.
Ok. Toi, Dan, tu produis une newsletter canon qui s'appelle Courriel via Kessel et les gens doivent découvrir et s'abonner à ton super fanzine sur la révolution climatique qui s'appelle Climax. Donc, go vous abonner, les gens, magazine plus newsletter. Et toi, Conny, tu viens de créer une plateforme de rencontre.
Elle n'est pas encore ouverte, elle est
presque.
En work in progress.
On ne sait pas quand on va sortir cette.
Ah, elle vient juste de sortir.
On ne sait pas, vraiment. Et c'est... on peut dire le nom ?
La fabrique de l'alchimie.
Exactement, je l'avais trouvé. Mais...
trop bien.
Je vous mettrai de toute façon les liens et infos dans les notes qui accompagnent cet épisode, évidemment. Donc la promo étant faite, j'ai l'impression un peu d'être Nikos là sur TF1, je vous cache pas. J'ai donc devant moi trois hommes qui ont interviewé un sacré panel de femmes, quasi 200. Chacune d'elles a offert aux auditeurs et auditrices des anecdotes intimes et leur histoire personnelle. Tantôt cocasse, parfois forte, voire douloureuse, même sexy par moments, et ont permis d'articuler des débats et nourrir les diverses réflexions autour des rapports entre hommes et femmes. Donc pour cela, merci les gars, vraiment du fond du cœur. J'ai aussi découvert une sacrée communauté bienveillante et très ouverte sur le Discord des gentilshommes, que je tenais à saluer. Coucou les gens, vous êtes vraiment magnifiques, ne changez rien. Bref, il est temps pour moi de vous tendre les micros, enfin les micros que tu as installés, Pascal, de vous écouter et de laisser opérer mon magic trick. Il y a un jeu de mots, je ne sais pas si tout le monde l'a.
Magic trick.
Bah, tiens, tu vas être bon en anglais.
Okay.
Ouais,
merci
ouais.
Dan.
Ouais,
Dan, il l'a.
Vous l'avez, c'est cool. J'ai essayé en allemand, mais ça ne passait pas. Désolé.
Tu as raison de ne pas, pas l'essayer dans ce cas-là.
On va procéder en trois temps, comme à mon habitude, vous connaissez les épisodes, mais avec des parties un peu différentes pour cet épisode événement. Donc, il y aura des questions perso-sexo, puis des questions un peu plus de fond sur les épisodes des gentilshommes, et un petit questionnaire de Proust.
Go.
Ça, c'est une question qui revient dans tous mes épisodes. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité et à l'érotisme?
Toi, tu sais?
Oui, oui, parce que... Oui,
parce qu'il sais. A travaillé, lui,
oui,
il a bossé.
T'as bossé un peu. Ça permet de réfléchir un petit peu. Oui, moi, je sais.
Bah, vas-y.
C'est une petite histoire. Hein.
Ah bah, bien sûr.
D'accord. Bah, c'est facile. Eh ben, je suis en cinquième. Et je pars avec ma classe, avec quelques personnes de ma classe, et il y a une classe de troisième, dans un voyage à Sarlat.
Ah oui.
Et là...
Dans le Périgord, pour...
Il y a une fille qui doit s'appeler Émilie. Si elle s'appelle pas Émilie, elle doit s'appeler Mélanie, un truc dans ce genre-là. Et elle est vraiment... Moi, je la trouve super mignonne. Et elle était, à l'époque, quand il faisait chaud, elles étaient habillées avec un short... Et le maillot de bain a une pièce en dessous, vous vous souvenez? Et ce maillot de bain, il la moule. Et je suis en cinquième, quoi. Et là, mon sang vulcanostatique ne fait qu'un tour. Il se passe un truc à l'intérieur de moi. Et j'ai dans mon esprit gravé cette espèce
image.
De petite poitrine toute ronde. Il n'y a pas d'histoire de téton, bizarrement. Et cette vision, elle me restait pour toujours.
Encore maintenant, je le sens.
Pour toujours.
Ok.
Et c'est marrant parce que c'est un voilà, il y a pas de c'est pas de la sexualité, ça doit être le début, il va y avoir quelque chose qui va aller vers la sexualité, mais il y a un érotisme. Alors que pour de vrai c'est un maillot de bain, mais il y a un érotisme dans le fait que elle soit cachée en même temps, mais que ça dévoile quand même des formes. Qui m'a marqué pour toujours. Suivant.
Trop bien.
Est-ce que tu peux reposer la question?
Alors, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ou à l'érotisme?
À la sexualité...
Ou l'érotisme. J'ai eu de tout au micro. Hein.
Parce que si j'essaye de creuser, je remonterai en cinquième. Alors, je ne sais plus si c'est ma première ou ma deuxième cinquième.
ou ta troisième?
Non, j'en ai fait que deux. Mais en même temps, et c'était un c'est hyper bizarre hein, parce que c'est lié à la sexualité. C'était un camarade de classe qui sortait sa bite tout le temps.
Ah.
Tout le temps. Je te jure.
C'est ouf.
Tout le temps.
Genre
en classe, oui, il la sortait, il la montrait comme ça.
Ok.
Et moi, je me souviens que je me disais, mais.
Mais qu'est-ce
fait
qu'il
ça,
fout,
c'est
quoi.
Bizarre.
Quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il fout,
et
quoi.
Pourquoi il me le montre et pourquoi il, tu vois, je m'en fous.
Mais c'était, on est d'accord, c'était pour rigoler. Enfin, c'était.
Oui, c'était pour rigoler. Il n'y avait pas du tout d'intention sexuelle. C'était vraiment regarde,
genre,
regarde,
c'est
regarde.
C'est la blague.
Voilà. Quoi. En même temps, je pense qu'en cinquième, il y a des choses qui se passent. Et t'as envie de le montrer aux gens. Et voilà. Et je sais pas si c'est ma deuxième ou ma première cinquième, ce qui a une petite importance puisque j'ai eu moi au moment de ma première cinquième. J'ai eu ce qui aujourd'hui serait qualifié d'agression sexuelle.
Ah.
Donc je me suis retrouvé pour des raisons de turbulence de d'enfant qui fout la merde. Je me suis retrouvé dans un endroit où il fallait pas avec un type qui vient et il commence à prendre ma main, à me parler et à me la poser sur au niveau du pantalon.
Un type,
wow.
Ouais,
tu dis
un type, ouais, un type.
Mais et... un type, un prof. Hein.
J'étais dans
un... c'est quand tu dis un
tu
type.
Veux toute l'histoire. Tu veux toute l'histoire.
Vas-y, vas-y.
J'étais au collège, j'étais dans un collège privé. Et en cinquième, moi, je me suis fait virer. Sixième, je me suis fait virer. Cinquième, la rentrée, c'est début septembre. Le 15 septembre, il y avait un mot dans mon carnet qui disait « Il faut qu'on parle du comportement de Pascal ». Donc, autant dire, je n'étais pas du tout l'élève modèle.
Ouais, okay.
Et un jour, je fais une énorme connerie. Je me fais virer. Mais je suis super malin. Donc... À l'époque, c'était les répondeurs, c'était le téléphone. Donc, j'arrive à... le directeur appelle chez moi. Il laisse un message sur le répondeur parce qu'il n'y avait personne. Moi, je sors du collège. Bam, je fonce chez moi. J'efface le message.
C'était logique.
Le truc que tu sais faire depuis longtemps. Donc, personne ne sait que je suis renvoyé. Je ne suis pas renvoyé temporairement. Je suis renvoyé définitivement du collège.
Wow.
En fait,
tes parents ne le savent pas.
Et mes parents ne le savent pas. Donc, moi, je fais genre, je vais au collège. Je vous ai dit, c'est un collège privé. Eh ben, je vais à côté du collège, il y avait l'entrée du collège, et à côté, il y avait l'entrée de l'aumônerie, là où se passaient les trucs un peu capot et tout ça. Et là, c'était ouvert.
Donc
j'étais là, en fait. J'étais là en mode planqué, parce que j'avais mon cartable et je faisais genre, j'étais au collège.
Ah,
quoi.
Oui, le projet, c'est que tu passes la journée là.
Bah ouais, moi, j'ai erré.
Combien de temps t'as passé là-bas?
J'ai erré un peu dans les rues et je suis pas resté longtemps.
C'est ouf.
Puisque quand je suis arrivé, il y a un type qui est venu, qui a commencé à me parler.
Un mec qui bossait à l'aumônerie?
Non, un mec de comme ça que j'ai jamais vu.
Un mec qui passait dans la rue.
Je l'ai jamais vu avant, je l'ai jamais revu après.
Waouh.
Et voilà. Et en fait, au moment où il a mis sa main, moi, tac, je me suis barré. J'ai enlevé ma main et je me suis barré, tu vois.
Ah ouais.
Mais du coup, est-ce que ça correspond à ta question ?
Alors, Pascal.
C'est pour ça que tu es traumatisé, Pascal.
Tu vois, c'est pour ça.
Ça alors, explique tellement de choses, putain.
Bref, déjà, voilà, vous avez dénoué quelque chose qui était comme ça depuis longtemps avec Pascal.
Non, mais non. Je ne l'ai jamais raconté parce que c'est un truc, j'en parle. Non, enfin, c'est pas du tout pas, un secret. Moi, j'ai pas du
tout
de.
Non, ça répond à la question parce que vraiment, libre à chacun de répondre à cette question et elle peut être comme.
Mais tu vois, en fait, j'ai pas de souvenir de sexualité ou de trucs comme ça, mais. Mais il y avait un truc pas net dans ce geste.
Ah bah bien sûr, et tu as compris.
Je l'ai compris tout de suite, et j'ai enlevé ma main, je me suis
barré.
Cinquième,
t'avais 12 ans, donc tu savais un peu quand même...
Je sais plus ce que je savais, parce que est-ce que c'était déjà la période où, ouais, je crois qu'il y en a qui sortaient déjà, mais ça voulait pas dire grand-chose, et moi j'étais en cinquième, j'étais vraiment dans la team...
Cinquième, tu sors, t'as le côté, tu tiens la main, c'est
ouais, mais moi j'étais dans la team, j'avais pas droit à ça, moi. Moi j'étais dans les...
T'étais pas dans les...
Ah non, moi j'étais dans les cassos, moi.
Ouais, ouais.
Nous, on était deux cassos, quoi. Ben voilà, tu vois, c'est ça, moi j'étais dans cette équipe-là. Toutes les semaines, mon père, il devait aller au collège en mode convocation, quoi.
Si tu fais le compte, t'es un peu un mec cool.
Collège privé,
pas trop. En fait, il y a un curseur quand même.
En fait, au collège privé, vraiment, tu vois, il y avait cette notion de ils vont tous là quand même pour être bien travaillé et tout. Et moi, j'étais en rébellion totale. Donc, j'étais pas du tout dans les cools. Au contraire, je sentais bien que j'étais vraiment... vraiment la sous-merde, quoi, tu vois.
Ok,
vraiment,
ah oui, genre, tu pouvais, c'était impossible pour toi de pécho.
Ah ouais, non, mais je pouvais
enfin,
même
pécho,
pas...
Quand je dis pécho, c'est en cinquième, c'est plus tu tiens la main et tu dis oui, c'est ma copine.
Non, mais c'était dur déjà en cinquième, putain, toi t'y arrivais.
Ah non, mais moi j'étais nul.
Mais nul, il y en avait quatre qui arrivaient à pécho, les quatre, voilà, c'est ça.
Ah non, moi j'étais nul, moi.
Et c'est fou parce que toi, ton fils est peut-être...
Non, il n'est pas encore au collège.
Mais moi, du coup, quand je vois le mien en cinquième, je me dis, mais là, à cet âge-là, là, il peut pécho. Ouais. Et je me dis, alors, moi, j'étais petit comme ça.
Ouais. Et ouais, parce que ça doit te choquer presque. Tu te dis, mais c'est trop chelou, en fait.
Ouais, c'est ça, ça fait hyper bizarre.
Ouais, ça fait bizarre.
Ouais.
Et toi, Dan, ton souvenir ?
Alors, moi, j'ai réfléchi un peu et je t'avoue, j'ai pas trop de souvenirs par rapport à, tu vois, le premier truc érotique, machin. Par contre, j'ai un souvenir...
Ça sûr. S'appelle de la langue de bois, tu vois. Là, il est en train d'essayer d'orienter,
il est en train de se dire ça y est, il commence.
J'ai un souvenir, mon premier rapport avec l'écologie dont j'aimerais parler. C'est qui m'a poussé finalement après, voilà, à réunir une équipe et à. Et voilà.
Dans 3 ans, il est président de la République, lui.
Non, plus sérieusement, je me suis rappelé d'un moment où j'étais au CP. Donc au CP, t'es quand même vraiment tout petit.
Bien sûr, 7 ans,
6-7 ans. 6-7 ans. Et je m'en rappelle, en fait, j'étais dans une école privée avec un énorme jardin, un immense jardin, mais vraiment très très grand. Hein. Comme ça, je pense que ça se fait plus maintenant. Enfin, dans Paris, c'était dans Paris, intramuros. Et il y avait genre un énorme arbre assez dense avec genre en dessous des... Enfin, genre un gros sapin où tu pouvais vraiment aller en dessous et personne te voyait.
Okay.
Et donc, nous, on jouait. Et puis, je me rappelle d'un moment, il y a une fille de ma classe qui vient me voir, qui me prend par la main et qui m'amène en dessous. Et qui, du coup, me montre son sexe à elle, quoi. Et en gros, voilà, elle me montre, elle me dit, vas-y, tu peux toucher.
Okay.
Et je crois bien que moi, après, j'ai fait pareil.
Bah, bien sûr.
Et en fait, je m'en rappelle, quoi. C'est un truc de ouf quand même, parce que ça m'a vraiment marqué. Et par contre, il y avait pas du. En fait, tu vois, il y avait pas de.
Oui,
de
y a
désir,
pas d'attention sexuelle.
Bien
sûr,
c'était
très
juste
bien
un
sûr.
Peu genre je. Tiens, c'est bizarre. On n'est pas pareil. Enfin, ouais. Toi, t'as pas un petit zizi, moi. Enfin, genre, est-ce que je peux toucher? C'est comment? Ok. Ouais, tiens, regarde, moi, je te montre. Tu peux tirer dessus. Et en fait, c'est trop bizarre.
La découverte du corps. Mais la majorité des réponses que j'ai, c'est souvent comme Dan. C'est souvent ces âges-là.
Souvent sous un arbre.
Alors pas sous un sapin. Dans un grand
c'était
jardin,
romantique.
Mais souvent c'est ça avec la voisine, une cousine, ça peut être des enfants qui ont gardé chez les nounous vers 4, 5, 6 ans, et c'est vraiment souvent les réponses que j'ai. Okay. C'est qu'effectivement on se découvre et on regarde et on touche, ça c'est vraiment sur le côté sexuel. Et érotique, ça dépend des générations bien sûr, il y a eu pas mal d'hommes, donc plus dans vos générations et un peu encore plus âgés, où c'est effectivement le playboy du daron, la VHS, etc. Et puis la génération plus jeune évidemment.
Ça pour le coup on a eu
porno.
Aussi nous.
Oui, oui, mais plus
nous,
plus
on avait aussi la VHS qu'on se faisait tourner. Mais c'est quand t'es plus vieux. Ouais.
L'autre question que je pose très souvent et qui je trouve être très intéressante, c'est est-ce qu'on parlait facilement de sexualité à la maison ?
Alors, pour le coup, je vais répondre. Nous, on parlait quasiment pas. Non, pas du tout. c'était un peu je sais pas si c'était tabou, mais non, on en parlait vraiment pas du tout.
Okay.
Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose, mais en même temps je pense que c'est pas évident, je pense, de parler de sexualité. Et du coup, bah, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer si vous avez des
non,
tips.
Non, moi non plus.
Comment est-ce qu'on en parle?
Toi, on n'en parlait pas à la maison.
Avec ses enfants.
Non. Après, avec ses enfants, oui.
Parles avec tes enfants.
Moi, j'en parle un petit peu.
Mais t'en parlais
pas avec tes parents. Pas avec mes parents.
Et genre, si vous aviez des questions, elles se posaient à qui? Parce que toi, en plus, t'es l'aîné.
Aux potes, quoi.
Aux potes. Toi, t'as un grand frère.
Moi, je suis l'aîné aussi.
Aussi, donc t'avais pas un référent frère ou grande sœur. Et toi, Connie, à la maison?
Non, moi, je pense que mes parents, ils auraient aimé en parler plus.
Ah oui.
Moi,
c'est toi qui voulais pas.
J'ai une anecdote rigolote comme ça. On y va, on
vas-y,
a le temps.
Vas-y. Oh, bah, okay. Tu sais,
je suis parti en Angleterre quand j'étais en quatrième.
Ouais.
Et mes parents, ils m'ont mis des préservatifs dans mon truc.
Donc plutôt moderne. Parents plutôt modernes.
Bah faut croire, ouais. Et
bah oui, c'est quand même
en me disant voilà bon voilà
tu peux y aller quoi.
Ouais.
C'est un peu non, genre
la
un
réalité,
truc.
Mais papa maman mais j'ai 14 ans mais. Je suis tellement loin de pouvoir baiser, vous vous rendez pas compte. C'est fini en bombao, quoi.
Bah c'était... évidemment, parce que j'allais dire. Après, c'est.
Ouais, mais c'est dans un sens, c'est quand même cool qu'ils te donnent un peu genre en mode, c'est comme s'ils te disaient, vas-y, t'as notre bénédiction, quoi.
Ah ouais.
C'est
alors moi,
cool, je trouve.
Ouais, non, parce que mes parents ils étaient tout bib. Donc.
Ils étaient tout bib. Ah oui.
Moi, j'ai pris comme un truc de santé.
Ah oui. En fait, j'allais te demander aussi, effectivement, ça dépend les contextes aussi où tu grandis, les catégories socio-professionnelles, la religion. Et c'est vrai que, pareil, à ce micro, j'ai eu des garçons avec des parents, mais pareil, encore une fois, tout âge. J'ai parfois des invités dont les parents étaient ex 68 ans. Et alors là, c'était vraiment, on en parle.
Allons-y.
Et puis
vas-y.
Il y a les bouquins, il y a le Kama Sutra et tout ça. Donc, c'est des
bien,
gens
qui
arrivent très au fait. Effectivement, après, dans des contextes soit plus bourgeois, soit plus. Enfin, je dis bourgeois et après, c'est un raccourci, mais souvent plus religieux aussi. Là, on n'en parle pas, c'est très tabou. Et des garçons qui arrivent effectivement avec une puberté, à ne pas comprendre ce qui se passe et le changement est compliqué à gérer. Donc, il y a de tout en fait. Et effectivement, souvent, les gens qui ont eu dans leur entourage des parents qui travaillent dans le secteur médical, il y a souvent le petit leaflet IST, MST, capote à côté, plus pour le côté santé.
Oui. Mais ils veulent en parler en même temps.
Relationnel.
Alors, il y a peut-être un truc aussi, parce que moi, j'avais un frère et je vois maintenant, j'ai garçon et fille.
Ouais.
Je pense que d'avoir une sœur, bon, je parle pour moi en tant que mec, c'est pas la même chose aussi. Il doit y avoir des trucs. Moi, je vois mon gamin, il connaît très bien la nudité de sa petite sœur. Mm-hmm. Il sait très bien. Moi, avant de voir une.
Oui, je sais ce que tu veux dire.
J'ai mis du temps, quoi.
Oui,
tu vois. Et il y a, ça peut peut-être jouer aussi. Il y a des freins, des machins comme
je
ça.
Je comprends ce que tu dis. Oui, oui. Oui, puis aussi le corps des parents. Il y a des parents qui sont très à l'aise dans la nudité avec leurs enfants.
Absolument.
Et puis, tu as des parents qui...
C'est hyper pudique.
Moi, j'ai un pote, il prend... Enfin, après, bon, il n'y a pas de jugement de ma part, mais il prenait le bain avec sa petite fille avec un maillot de bain.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais, bah c'est... Après, il y a des enfants aussi qui ne sont pas à l'aise avec la nudité.
Oui, mais là, je te parle vraiment petit bébé.
Là, tu parles
pas d'un enfant, tu vois, à partir de 3-4 ans. Je pense que l'enfant, il doit être dans sa propre nudité.
Ah oui, petit bébé.
Je te parle du bébé, quoi, qui... Oui,
bah c'est genre quoi, un genre choix aussi, quoi, c'est pas...
Ouais, voilà. Mais c'est, du coup, ça pose, tu vois, question sur, après, la représentation du corps. Parce que ça, cacher quelque chose, ça veut dire que je ne veux pas te le montrer. Pourquoi je ne veux pas te le montrer? Du coup, ça crée un... Enfin, bon, après, voilà, chacun interprète. Ok, merci pour ça. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez me raconter votre première fois? Ce qu'on peut dire de la première fois.
Bah moi, en vrai, c'était nul. C'était nul.
Alors, attends,
nul.
Vraiment, j'ai très, très peu, à part de mémoire Martin, je crois que tous mes invités ont une première fois catastrophique.
Ah ouais? Bah non, moi, c'était la cata totale.
Bah,
en plus, j'étais âgé dans le sens où, après, je trouve ça bizarre de dire âgé parce qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Parce que même dans Les Gentilhommes, on a reçu quelqu'un qui...
Carole.
Carole, qui a eu sa
32.
Première fois...
Non, toujours.
Non.
49 ans. Non, 40, elle est toujours vierge.
Ouais. Et,
cas,
et moi, c'était âgé dans le sens par rapport à ce qu'on dit. Moi, j'avais 20 ans passé. Je pense que j'avais 21 ans. Et c'était, en fait, je suis vraiment arrivé à un stade de ma vie où je me disais, bon, en fait, tous mes potes me disent machin. En fait, je pense qu'il y avait peut-être des mythos dans le tas. Hein, mais en gros, t'as quand même ce truc. Il y a quelques potes où tu sais, parce que tu les as vus avec leurs copines. Enfin, tu sais qu'ils ont en tout cas des copines. Et moi, je me disais, bon, en fait, au bout d'un moment, il faut que j'y aille. Et en fait, vraiment, il y avait une meuf qui me courait après. Enfin, c'était presque du harcèlement, en vrai, parce qu'elle arrêtait pas de m'envoyer des messages et tout, des lettres d'amour, de trucs de malade. Et genre, on avait 21 ans, hein, on n'avait pas 12 ans, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, je me dis, bon, C'est parti. Je l'ai invité chez moi et je lui ai dit, écoute, vas-y, tu me plais. Je l'ai embrassé. Voilà.
T'étais en études secondaires déjà?
Ouais, j'étais en études secondaires, exactement.
Et tu sentais qu'il y avait déjà un décalage, enfin, t'avais un décalage avec les potes? Ça commençait à te peser?
En études secondaires, c'était des nouveaux potes, donc j'en parlais pas trop. Ouais. Mais après, avec mes potes, oui. Mais après, on parlait pas trop de cul, mais c'était plus... Après, t'as toujours les blagues, mais dans ce cas-là, t'essaies de t'en sortir en mode...
La langue de bois.
Mais voilà, langue de bois.
L'écologie, personne moi, les gars, c'est l'écologie.
Personne te demande frontalement, tu vois, généralement.
Ouais.
Parce que souvent, il y a, en fait, je pense que t'es pas le seul. Donc, a priori, d'autres, il y en a d'autres qui veulent pas non plus qu'on leur demande. Et après, j'en parlais. Il y a quelques potes, par contre, des potes très proches, mes deux meilleurs amis, eux, ils le savaient. Et puis, du coup, ils me disaient, bah, tiens, tu devrais... vas-y, va voir telle meuf, je suis sûr, elle serait chaude. Enfin, ils essayent un peu de m'ambiancer, tu vois, de me dire, mais prends confiance en toi. Franchement, c'est pas, tu vois, c'est pas la mer à boire.
Et pourquoi ça a été nul?
Pourquoi ça a été nul? Parce que je pense qu'il n'y avait pas de sentiment, il y avait vraiment
pas
un côté...
Oui,
de mon côté, ouais. Il y avait un côté très, je pense, il faut que je me jette dans le bain, tu vois.
Ouais.
C'était un peu genre, ok, il faut y aller, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je vais le faire, et puis je verrai après, quoi.
Ouais.
Et après, je débrieferai, quoi.
Moi, je suis d'accord. En fait, si je dois retenir un truc, finalement, ma première fois, c'est la délivrance.
De le faire, quoi.
C'est la délivrance de le faire.
Ça y est, tu coches la case.
Ouais, tu coches la case et... Putain, tu te dis ça y est.
Et après, t'es tranquille.
T'es peinard,
après tu peux te dire, bah, vas-y, je réessaye.
Et puis, il y avait tout ça pour ça aussi.
Oh, alors, ça, c'est encore une autre histoire. Ouais, parce que comme c'est pas terrible, la première fois, enfin, sauf Pascal, il y a
peut-être une autre histoire.
Je sais pas si t'avais l'air de dire que ça avait l'air.
Pascal, tu disais que c'était avec une mannequin, non?
Non, mais c'était pas nul, en tout cas. Mais vas-y, Connie.
Ouais, non, mais c'est fou. C'est fou parce que je retrouve ça et je sais que c'est pareil pour plein de mecs. C'est-à-dire, putain, t'as plus l'étiquette de puceau, quoi. Tu vois,
ouais,
c'est horrible, hein, dans
c'est
sens
horrible,
parce que
c'est con.
Oui,
hein.
Cette étiquette, en fait, elle est complètement con.
Elle est complètement
con.
Mais
c'est un rituel de passage. Ouais. Il y a quelque chose. Enfin, on est dans des sociétés où
mais
il y a besoin d'avoir.
Elle te libère, putain.
Et en même temps, ça veut rien dire dans un sens de, tu vois, d'avoir. Parce que ça, c'est vraiment pénétration. Parce que tu pourrais être plus saut et finalement avoir pécho des tonnes de meufs ou de mecs ou juste avoir eu des relations mais sans pénétration et tu serais quand même plus saut.
Ouais. Ça veut rien dire pour nous aujourd'hui parce qu'on a fait vachement de chemin depuis, mais quand tu regardes ça depuis l'autre rivage où tu as vécu 14, 15, 16, 17 jusqu'à 20 années en ayant cette espèce de truc de Graal, forcément, tu vois, à ce moment-là, ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai qu'une fois que tu l'as fait, tu dis, bon, effectivement, c'était que ça.
C'est toujours pareil dans la vie, hein, quand tu l'as, tu dis, bah, c'était que ça. T'as ton bac, pendant un an, tu flippes de pas l'avoir, tu l'as, tu dis, bon, c'est bon, le permis de conduire, c'est pareil.
Il y a des gens ici qui ont travaillé pour avoir le bac, donc je sais pas toi, ne minimise pas ça.
Non, ça veut pas dire que tu travailles pas, c'est que je trouve que quand t'obtiens quelque chose.
Oui, bien sûr.
Il est acquis et d'un seul coup, il devient très naturel.
Ouais.
Et la perte de virginité, c'est ça, je trouve aussi.
D'accord. Et donc, toi, Pascal?
Mais moi, j'ai pas un mauvais souvenir. C'était un truc normal.
Donc, toi, t'avais quel âge, pardon, Connie?
Ah, j'avais 18 ans, moi.
18 ans, et toi, t'avais quel âge?
17 ans.
17?
17, ouais, 17 ou 18.
Petite amie du moment?
Ouais, c'est ça, c'était la petite amie du moment.
Une vraie petite amie, quoi.
Ouais, c'était une vraie petite amie. On était ensemble depuis quelques temps. Et c'est elle qui m'a vraiment. En plus. Initié à ça, puisque, enfin, je veux dire.
T'as chauffé ou...
Ouais, c'est elle qui m'a chauffé, mais moi, je l'avais pas particulièrement d'objectif.
Ah.
C'est elle qui m'a amené à ça, elle était un peu plus âgée que moi. Et à un
elle
moment,
avait déjà elle... fait l'amour, elle.
Ouais, okay. Et elle m'a fait comprendre qu'elle voulait que ça se pratique. Et voilà, je me souviens que ça s'est fait en deux fois. Il y a eu une première fois où c'était juste une fellation de sa part. Et c'était cool. Et après,
élégant, Connie.
Et deux jours après, c'était.
Ah oui, deux jours après. Il a dit élégant.
Et deux jours après, il y a eu.
C'était plan A3 direct.
Il y a eu. Non, mais je me souviens plus s'il y avait. Je sais que c'était dans l'appart d'une copine, mais je sais plus si la copine était dans les parages ou pas. Et. Et je me souviens qu'il y a eu double. Tu vois? Double affaire, quoi. Il y a eu premier coup. Non, on se repose et on remet ça dans la foulée, tu vois.
Ah, oui. Okay.
Genre, il y a eu le double bang.
Et donc,
quoi.
Une fois que
double
tu perds bang. Ta virginité, toi, qu'est-ce qui se passe?
Je me souviens même pas, donc ça doit pas être, tu vois, un truc de. Enfin, moi, c'est pas.
C'était fait, mais t'avais pas sentiment comme.
Putain.
Les garçons sur ce côté.
En tout cas, j'en ai pas ce souvenir.
D'accord.
J'en ai pas ce souvenir de. Tu vois, je me disais pas. J'ai pas le souvenir de.
Moi, en terminale, j'avais deux objectifs. C'était avoir le bac et perdre ma virginité. C'est tout.
Et t'as atteint les deux?
Bah non, il a fallu que je fasse le
bac
d'abord
première,
et après. Ça s'est fait après, mais.
J'étais en première.
Ouais. Non, tu sais, attends, je me
peut-être que ça change quelque chose d'être au lycée et pas au lycée. Hein,
si bah oui,
seconde,
peut-être. Hein.
Parce qu'au lycée, tu sais, tout sait, tout, tout le monde sait, machin tout. Et tout. Tu vois.
Mais du coup, c'est bien quand ça sait que t'es en
t'es le boss, t'es le patron.
T'es le beau gosse.
Bah, bien sûr. Surtout qu'on est milieu des années 80, fin des années 90, SIDA, capote et tout.
Bah oui.
Et c'était pas une période. Moi, j'entends les anciens élèves qui étaient 10 ans avant le lycée. C'était la fête du slip, quoi.
Ils fumaient dans les couloirs et tout, ouais.
Je fumais dans les couloirs. C'est du slip que ça.
Ah ouais, moi, moi. Ah
parce
oui.
Que oui, mais il y en avait forcément qui étaient inhibés quand même.
Avant,
tout le monde n'était pas en mode yalla, avant, et vas-y, ah ben, je fais l'hélico.
Non,
quoi,
évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens normaux comme toi et moi, on aurait réussi au lycée, tu vois, en 1984. Okay. Tu vois ce que je veux dire.
On est né. Mais après 4 ans, on est né 10 ans plus
trop,
10 ans
trop tard, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai. Hein. Je fais juste une petite parenthèse. En cinquième. Quand on commence à comprendre ce que c'est que la sexualité et que là la clé est dans la serrure et tout, à ce moment-là, je suis à, quoi, c'est 91, 92.
C'est une métaphore, hein, j'explique.
Oui, oui.
Même plus tard. Plus tard, je dirais.
Moi, c'est à 95, peu près cette période-là. Oui, c'est le moment où il y a le SIDA qui arrive dans la gueule de tout le monde.
Il faut rappeler que vous êtes né fin des années 70.
Exactement.
Mais moi, je me rappelle aussi les capotes.
D'un coup, là.
Les capotes gratuites. Tu vous rappelez de ça, les capotes gratuites qu'on donnait partout?
Bien sûr, ouais,
mais dans l'infirmerie, partout, en fait. T'avais allé dans un magasin, limite, ils te donnaient les capotes.
Ce que je voulais dire, c'est que nous, on est de cette génération où, au moment où on commence à découvrir l'amour,
on a dit attention.
Ouais, il y a une difficulté supplémentaire. C'est, ça va pas être si naturel que ça. Parce qu'il va falloir que tu mettes un petit bout de
puis
plastique.
Puis beaucoup les médias, enfin vous rappelez tous les primes qui étaient dédiés à ça, et du coup,
un truc qui devait se faire un peu naturellement en même temps et qui devait aller vers du plaisir, etc. Dès le début, il y a une espèce de contrainte de maladie, danger de mort et une contrainte de capote
à
mettre.
Tu l'as dit, danger de mort. C'est-à-dire qu'à l'époque, le VIH, on en mourait et c'était assez dramatique.
Je ne fais pas l'histoire, on va me traiter de tous les noms, mais en 1991, la probabilité pour que la fille qui est dans ta classe au lycée, elle est le SIDA.
Oui, oui.
Elle est quoi? Elle est hyper faible.
Alors, il existe
ça,
le risque
de médecin qui parle ça.
Non, j'ai demandé ça quand. Non, j'avais demandé ça.
Bien sûr, le risque existe.
Il existe.
Et en fait, c'est même pas tant le risque, c'est plus tout le storytelling autour.
Ouais, c'est ça.
Et le fait que, dans ta construction personnelle et ton rapport à la sexualité, bah, tu mets pas juste le plaisir.
C'est ça.
Et l'amour, tu mets aussi le danger, la mort, le médical. Et en fait, c'est vrai que je pense que nous, ça a vachement joué.
Oui, ça a matrixé un peu votre façon de.
Ça nous a un peu matrixé, je pense.
Oui.
Et c'était pas en mode. C'est vrai que pour le coup, moi, les premières fois, c'était capote, machin. Enfin, et en vrai, moi, je comprenais même pas les gens qui me disaient, moi, je mets 100 capotes. Pour moi, c'était aberrant. Je me disais, mais t'es un ouf. Enfin, j'ai envie de mourir, quoi.
Ouais, complètement.
Et c'était peut-être exagéré, hein, mais.
Ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, je suis la génération un peu après, mais effectivement, je vois ce que vous voulez dire.
Bah, t'as connu la capote pareil.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait un truc où tu t'imaginais pas avoir un rapport sexuel qui est pas protégé. C'était c'est vrai. Est-ce que vous avez un regret sexuel dans votre vie sexuelle?
Là, c'est le moment pour ta blague habituelle. Hein.
Là, tu parles de quelle blague là? Éclaire-moi.
Il va falloir que tes auditeurs écoutent nos podcasts maintenant pour comprendre.
Vous êtes obligé d'aller voir le running gag.
Mais, les regrets. Moi, j'ai un regret, c'est que je pense que justement quand je disais que je l'ai fait tard et même après, parce que donc j'ai eu ma première relation à 21 ans et après en fait j'ai mis du temps à prendre confiance en moi. Et du coup, c'était la croix et la bannière pour draguer une fille ou pour coucher avec, parce que en fait, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment un truc surhumain d'aller draguer.
Qu'est-ce qui te bloquait?
J'étais hyper timide, quoi. Je pensais, j'avais absolument pas confiance en moi, vraiment, timidité de ouf. Et du coup, le regret que j'ai, c'est, en fait, je me dis, à l'époque, j'étais quand même hyper, enfin, tu vois, quand t'as 20 ans, t'es jeune, t'es fringant, a priori, t'es beau gosse, enfin en vrai pour les gens de ton âge t'es beau gosse, enfin tu vois a priori. Donc je regrette de pas en avoir profité, enfin profiter ça, c'est bizarre comme mot, mais de pas m'être éclaté à l'époque, parce que en fait je me dis j'ai loupé tellement d'occasions, en fait, de même de meufs qui m'envoyaient des signaux en mode genre vraiment des signaux verts et tout, et genre moi en fait j'étais un peu terrorisé, je pense.
Ouais,
pour moi c'était genre waouh.
Et tu mets ça sur le compte de la timidité?
Je pense pas mal la timidité et de la, enfin peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais c'est manque de confiance vraiment, Et je me rappelle quand j'étais au collège, il y a eu 2-3 phases où c'est vraiment les moments où tu te construis. Mm-hmm. Et où des potes à moi me disaient « Ouais, mais toi, quand même, t'es vraiment trop mince. Toi, t'es bizarre. » Et en fait, moi, comme j'étais toujours hyper grand, j'étais toujours hyper mince, bah, j'étais toujours différent. J'étais pas du tout dans la norme. Et je pense que j'ai vachement assimilé. Là, c'est un peu le moment Clara Luciani, là. Hein. Genre,
ah oui, c'est vrai.
Genre, voilà. Et j'ai vraiment assimilé ce truc. Je suis différent. Mmh. Du coup, je plais pas. Parce que ça, je me rappelle, il y avait aussi des potes, enfin des faux potes d'ailleurs, qui me disaient « Oui, mais toi, tu plais pas parce que machin, t'es pas musclé. » Enfin, tu sais, quand un mec te dit ça alors que t'as genre 13 ans, c'est débile, quoi. En fait, personne n'est musclé à 13 ans. Enfin,
surtout si c'est le mec qui a la cote, le machin et tout, tu le crois comme un con.
Mais toi, tu le crois. Ouais, toi, t'es en mode genre « Ah ouais, putain, merde, moi, je suis moche. De toute façon, c'est niqué pour moi. Je le choperai jamais, quoi. » Et en fait, ça m'a vraiment marqué. Et en fait, j'ai vraiment eu besoin. Et en fait, je pense que ça s'est débloqué, mais hyper tard. Genre, je pense, je dirais même vers 25-26 ans, quand j'ai eu ma première relation longue et d'une fille qui me plaisait et en fait qui m'a fait comprendre, genre non, mais en fait, t'es beau gosse et en fait, arrête de te flageller, quoi. En fait, c'est n'importe quoi. Et en fait, ça a mis du temps, quoi.
Tu penses pas que quasiment tous les ados ont à peu près, enfin, à un moment donné, un peu cette phase de pas être bien avec soi, enfin c'est le propre d'adolescent de pas être bien avec soi.
Peut-être, mais comme on se disait, il y a quand même quelques mecs dont on se rappelle tous, tu sais, c'est les mecs, les beaux gosses de la classe qui... Et il y a des meufs aussi, hein, d'ailleurs, qui pécho, elles ont 14 ans, elles arrivent, il y a un mec de 18 ans qui arrive, toi t'es en mode genre waouh, parce que le mec il a une voiture, je sais pas quoi.
Il peut l'emmener en boîte, tu sais.
Ah, non, mais, et tu vois, il y a toujours ces gens-là dont on se rappelle. Moi je me rappelle des noms, des prénoms et tout, c'est ouf.
T'as raison.
Et en fait, il y a toujours eux, et c'est à eux que tu te compares. Évidemment, l'immensité des gens, bah en fait, sont comme nous et sont un peu en galère et se croient moches alors qu'ils ne le sont pas forcément. Mais il y a toujours quelques-uns qui sont plus beaux gosses et qui
c'est plus facile.
Du coup, bah, malheureusement, ça nous donne un... Enfin, ça, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Vous êtes Pascal, toi, tu étais le beau gosse ?
Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai aucun regret parce que ce n'est pas fini. Donc, tu vois, j'ai
pas
de...
Waouh !
Bonne réponse.
C'est même que le début. D'accord. Je me dis, si c'est un truc que je veux faire, je peux essayer de le faire.
OK.
Donc non, j'ai pas... tu vois, vraiment, je ne peux pas...
OK.
Ce n'est pas fini.
Ça marche.
Je suis Pascal et moi, pendant à une époque, je me disais j'avais des regrets parce que j'ai pas connu des tonnes de meufs et tout. Et puis moi, je me suis maqué assez tôt et dans la fidélité.
C'est vrai que t'es en couple, toi, c'est ça. Hein.
Et quand je vois mes potes qui scorent des meufs et tout, là, je fais un petit tour de table, tu vois. Oui.
Ah, maintenant, tu veux dire?
Ouais, qui couche avec plein de filles et
mais
tout.
Mais il n'y en a pas ici à cette table.
Pendant longtemps, je me disais putain, ils ont de la chance et tout quand même. Et puis en fait, non.
J'adore la conclusion.
C'est vrai que tu dis c'est galère en fait.
En fait, non. Non, parce qu'en fait, la sexualité, c'est très bien. Et même avec une seule personne, quand ça se passe très bien, c'est très bien.
Et je pense que t'as raison en vrai.
Mais ça
en
veut
vrai,
dire
je pense que t'as raison.
Non, mais sans avoir raison ou tort, ça démontre d'un alignement qui est hyper sain. Et c'est important, bien je sûr. Trouve, d'être dans cet alignement et d'être dans une vie où tu lorgnes pas sur la vie du voisin.
Ouais, exactement.
Tu vois, c'est et je trouve
chacun,
ça admirable.
Chacun doit avoir son alignement, son équilibre.
Et de se dire, ce que je vis me convient et ce que vivent d'autres, ça semble leur convenir, mais moi, ça me conviendrait pas. Je trouve que c'est une démarche qui est assez rare. Hein.
Mais ça peut évoluer aussi. On est
d'accord. Il faut avoir le luxe déjà de pouvoir se poser les bonnes questions et d'y réfléchir et d'en parler, se renseigner. Mais effectivement, il y a pas de bon ou de mauvais chemin. Enfin, c'est chacun après fait
et
la.
Et je pense que ça peut évoluer. Je pense aussi.
Bien sûr que c'est. Et la vie n'est qu'évolution. Enfin, heureusement.
J'espère.
Oui, c'est sûr. C'est quoi votre date idéal?
Si tu veux dire quoi par là, date idéal, genre la personne avec qui on a envie là. Par exemple là, tu me dis tiens, t'as un date tout à l'heure.
Ouais.
La personne que je m'imagine en fait.
Alors ça, c'est la question
c'est
d'après, mais tu
c'est
peux.
C'est pas le contexte.
C'est plus le contexte. Peut-être tu n'as pas du tout lu les questions.
Hier,
il me redemande les questions. Je lui dis, est-ce que tu veux que je te fasse un copier-coller?
Mais si, j'ai sympa.
Il me dit, non, t'inquiète, je vais aller les chercher dans la conversation.
Vraiment? Tu le connais pas, tu savais pas, tu pouvais pas savoir.
Mais si, j'ai lu, j'ai tout.
Pourtant, parce que on a décalé, parce que bon, tout ça.
Oui, c'est vrai.
Ça va être à charge contre lui.
Non, pas du tout.
Oui, donc le date,
le contexte. Merci, Tony.
Ok, non, mais c'est cool. Parce que pour moi, le date, ça peut être aussi la personne.
Oui, c'est la question d'après.
Bon, allez, arrête de négocier pour répondre à ta question, quoi.
Donc, moi, je vais répondre tout de suite. Pour moi, le date idéal, franchement, c'est un verre dans le rad du coin.
Ok.
Moi, je trouve ça cool, en fait. Le truc vraiment le moins... Moi, le truc que je déteste, c'est quand j'ai rendez-vous avec... j'échange avec une meuf et qu'elle me dit... Ah, mais j'aimerais bien que tu me surprennes avec un lieu un peu atypique que toi t'aimes bien. Ça, non, ça me... Bah. Du coup, j'ai envie de dire, bon, bah, au revoir.
Le lieu que t'aimes bien, si c'est un PMU ou un
oui,
RAT,
voilà.
C'est OK, tu vois.
Non, mais ça, ouais, mais parce que tu sais, il y a toujours ce truc un peu genre, fais-moi okay. rêver, trouve-moi un lieu de ouf.
Ouais.
Et ça, en fait, ça me saoule.
Ah, t'as cette lecture-là, mais ça enfin, peut être aussi quelque
non,
chose
mais,
qui te...
Oui, alors t'as raison.
Quand il y a le sol qui colle, c'est quand même vraiment là le rad-rad, quoi.
Et ouais, moi, et pour le coup, non, mais t'as raison, en fait, ça peut. Ça pourrait
peut-être
être
que
ça.
Cette
et peut-être que je comprends mal des fois le. Peut-être que je devrais dire, bah viens, on va dans le.
Peut-être
que
tu devrais lire les messages.
Dans le rad du coin. Je devrais lire les messages, voilà. Je fais une face les messages.
On avancera.
Ah, il se fait allumer ce soir.
Non, mais c'est cool, c'est cool.
Toi, Pascal.
Moi, je suis pas du genre à faire des dates, j'ai pas l'impression. Donc,
ou toi, t'es pas sur les applis d'après ce que
tu
me
dis. Tout de suite, toi.
C'est pas du tout appli.
Direct, straight to the bank.
Et voilà, si je devais avoir un truc idéal, c'est celui qui mène à straight.
C'est le. Chez toi, direct.
Chez toi.
Mais non, pas forcément, ça peut être n'importe où. Mais non, mais. En tout cas, je suis pas date, je suis pas prendre
d'accord.
un rendez-vous. Après, je suis même pas très.
Ça te saoule, non ?
Ouais, ça me saoule. Enfin, je suis pas très dans tous ces trucs-là.
Ces
enfin,
codes-là, d'accord.
Ouais, ça me parle pas tellement.
Ok.
Enfin, ouais, je suis pas. Bon, toi, on.
Ah ouais,
c'est marrant cette question parce que j'ai
pas de.
Mais aucune idée, quoi. C'est ouf. Hein.
Ok.
Je suis tellement loin de la. De la rencontre amoureuse comme ça que...
Et quand tu te rappelles au début avec celle qui est aujourd'hui ta femme
et ben, quand je me rappelle des dates, je me rappelle que c'est chiant. Parce qu'effectivement, tu dis est-ce que ça va lui plaire, ça va pas lui plaire, comment on choisit, est-ce que des emmerdes tout ça.
Vous mettez beaucoup la pression.
Ah oui,
ouais,
c'est dingue.
On se met la pression, je pense à juste titre, parce qu'il faut quand même être cool. Enfin,
bah ouais.
Okay.
Et c'est qu'il y a un enjeu.
Je me dis ouais, il y a un enjeu. C'est...
Parce que... Tiens, alors attends un truc. Parce que là, c'est un truc qui ressort du podcast aussi. C'est que les gens, ils ont des rendez-vous et tout. Mais moi, quand j'avais un rendez-vous, j'étais content. Hein.
Déjà d'avoir un rendez-vous.
Déjà, j'avais un rendez-vous.
C'est déjà ouf, quoi.
C'était grand, hein, on se comprend. Hein,
oui,
d'avant,
allez,
là.
Ouais, ouais.
Tu vois, je veux dire, c'est pour ça qu'on se okay. mettait un peu la pression.
Ouais,
tu
je
vois.
Comprends.
C'est-à-dire ouais, que tu comprends qu'on se la met toujours. Parce que
toi, tu te la mets toujours.
Bah, parce qu'en fait, tu te dis aussi que en fait, tout le monde a des rendez-vous.
Ouais.
Donc toi pour sortir du lot, il faut quand même que tu fasses un effort. Ouais. Enfin, et en fait que tu sois un peu, que tu te dises voilà que tu fasses un peu travailler tes ménages,
ouais, que ça bouge un peu le cul. Ouais.
Voilà, tu te bouges un peu le cul. Et ça je comprends. Hein.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que moi je trouve par contre le côté ce que je disais tout à l'heure et je vise personne en fait parce que peut-être qu'il y a des auditrices qui se reconnaîtront de ce podcast parce que récemment j'ai eu exactement ces conversations là. Et en fait, c'est pas grave. Et je comprends le truc de dire, bah, fais-moi découvrir un truc cool et un truc à toi. Et ça, je comprends. Et si ça peut être le bar que moi j'aime bien, qui est pourri, mais que en fait moi je trouve
tu
marrant,
dedans,
dans ce cas-là, c'est cool. Mais si c'est un truc genre en mode, il faut que je te trouve un resto de ouf parce que soi-disant, enfin, t'es exceptionnel et nous sommes exceptionnels. Moi, je trouve ça un peu relou parce qu'en fait, je trouve ça plus cool de se découvrir dans un cadre normal. Et évidemment, si on se kiffe, bah, on ira dans un truc plus cool, on ira dans un truc exceptionnel. Mais, et je trouve ça aussi relou de devoir tout mettre dès le début, quoi.
Ouais, je comprends.
Genre en mode, tu vois, il faut tout donner tout de suite. En fait, tu te rencontres et tu vois, quoi.
Bien sûr, je comprends.
Pascal, toi, tu fais pas de date.
C'est
non,
vrai.
Non. Mais si je devais faire un date, je pense que je ferais pas. Enfin, ça m'est arrivé quand même de me retrouver à boire un verre avec quelqu'un.
Sûr,
mais c'est un truc que je n'aime pas du tout. À choisir, je préférais toujours dire, bah tiens, j'ai tel truc, viens.
Oui, genre, oui,
viens
je veux ciné.
Ouais, que tu mettes dans le
non,
mouvement.
Pas le ciné, parce que je trouve que c'est vraiment un mauvais truc pour dater.
Le ciné, on est d'accord. Mais en plus, on peut pas se parler.
Un vernissage, une soirée, un truc, tu vois, un truc où il y a de l'action. Et où je me retrouverais en...
Vernissage, c'est très cool.
Avec d'autres gens, pour pas me retrouver avec cette
pression. En fait, c'est ça, c'est intégrer dans toi ton mouvement de vie et voir comment elle s'adapte.
Ouais.
Ouais, je comprends. Ok, votre femme idéale. Donc ça va avec la deuxième.
Ouais.
Bah Connie, tu peux répondre, non ?
Oui, mais je peux répondre.
Connie l'a rencontrée.
Il faut dire aux auditeurs, non pas du tout, qu'elle avait préparé la question. Puis quand je suis arrivé, on a discuté un petit peu. Et puis à un moment, je la regarde et je suis mort de rire parce que ma réponse en fait c'est rousse et pulpeuse. et Anne-Laure est rousse et pulpeuse. Alors j'ai eu une espèce de fou rire quand on est arrivé et que j'ai repensé à la question. Pas de gêne.
Non, mais
voilà.
Bien sûr.
Voilà.
Mais...
Donc, non, voilà, sans équivoque.
Mais là, tu parles du physique, là ?
Ah oui,
tu dis, c'est pas que le physique.
Oui, il
n'y a pas que le physique.
Et pas le physique. C'est plus complexe. Parce que c'était quoi j'avais mis? Ah non, j'ai rien mis.
Si.
C'est que moi, il n'y a pas d'idéal en fait.
D'accord.
Il faut qu'il y ait un truc, il y ait un truc qui marche. Et je crois que c'est du côté socioculturel que c'est le.
Ok.
Le vrai déterminant, il est par là.
Le vrai match.
Ouais.
C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu as de la discussion, tu veux dire?
Non. Quelqu'un avec qui tu as une équivalence un peu socioculturelle.
Mais c'est quoi, enfin, si
ça, veut dire,
creuser,
ça veut dire ben, où t'es
même
né,
milieu social,
t'es, milieu social, qu'est-ce que t'as appris, ta culture, tout ça. Moi je crois malheureusement avec la vie, je sais, c'est pas super glamour, parce que surtout on nous vend vachement, surtout dans le cinéma français et tout, les rencontres inter-classe sociale et tout.
4 ans sud de clash,
ouais,
c'est facile.
Moi, je, avec le recul, j'y crois moyennement.
D'accord.
Et mon expérience de vie en couple me fait dire que quand on est très équivalent socioculturellement, après il y a d'autres choses, il y a des valeurs et tout, mais ça m'a l'air lié. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est juste une expérience de vie comme ça. Et j'ai l'impression que c'est le critère. Mais d'un autre côté, quand tu rencontres quelqu'un, c'est difficile, tu ne peux pas... Enfin,
oui.
Pas lui dire.
Faut passer un peu de temps.
Ouais,
avec.
T'as passé quoi? T'as fait quoi? Tu fais quoi?
Oui, mais tu sais un peu quand même.
Mais par contre,
assez rapidement.
À la manière de parler, à la manière d'être habillé,
Tu vois, typiquement,
ça va très vite.
Ce que le date que tu proposes, si c'est par exemple le type de bar, le type d'endroit, ça en dit vachement vachement sur tu es comme personne.
Ouais.
C'est pour ça que louer une Porsche, c'est une mauvaise idée.
Bah, la Porsche, c'est probablement une mauvaise. Enfin, c'est une bonne idée pour certains.
Mais oui, mais.
Certaines.
Mais pour là, ce serait fake.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Et toi, Pascal?
Alors, la familiale.
Bonjour, Pascal.
Nous, on se connaît bien.
On n'a pas fait un épisode de la familiale.
Oui, on l'a fait. Non, mais moi, le problème de la familiale, déjà, c'est que tu poses la question au singulier. Donc.
Bon, galère. Oui, c'est vrai.
J'étais pas prête.
Oui,
bah oui.
Je m'en veux de pas l'avoir.
Comment tu n'as pas pensé?
Ouais, je sais, je me déçois un peu.
La femme idéale, je sais pas parce que.
T'as pas de style. Tu dis souvent, j'ai pas de style.
Physiquement, j'ai pas de style.
Ouais. Moi, je sais pas quelle ta réponse. C'est...
Mais ça, j'ai du mal à. Je te crois, hein, mais j'ai du mal à le concevoir.
J'ai pas de style.
Genre vraiment.
Quand je regarde le type de femme avec qui j'ai eu des relations courtes, longues, peu importe, elles ont pas de. Il n'y a pas de choses en commun, que ce soit au niveau de tout, de la taille, du milieu socioculturel.
Donc, tu trouves toutes les femmes belles.
Ah oui.
Ok.
Ah oui, c'est clair. Non, mais vraiment. Donc, le physique, si tu veux, c'est une...
C'est pas une barrière, quoi.
Non, c'est pas une barrière. Non, mais c'est genre une porte d'entrée. Et c'est... De toute façon, c'est le truc qui se dégradera forcément.
mais pour tout le monde.
Non, mais je parle de moi aussi. Hein, je parle de tout le monde. Je fais pas du tout...
Okay.
Voilà, c'est de toute façon... Enfin, si tu bases que là-dessus, bah, attends-toi quand même à des sacrées surprises si tu vieillis auprès de la personne, quoi. Donc, le physique ne suffit pas. Et je dis ça parce qu'en plus, j'ai parfois eu des occasions et des histoires avec des filles qui étaient vraiment superbes, vraiment le genre de filles qu'en boîte de nuit,
sociales,
personne ne va voir.
Dans les normes sociales,
parce qu'elle
voilà,
est trop,
c'est toujours...
Et au final, c'est pas celles qui m'ont le plus accroché. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas le physique, c'est vraiment plus une espèce de connexion, de fluidité, la manière dont tu peux partager des bons moments.
Et qu'est-ce que tu juges justement, c'est quoi, qu'est-ce qui, toi, sont les impératifs pour que ça matche?
Quel est un peu, quel est un peu d'argent, quoi.
J'ai pas d'impératif, justement, faut pas qu'il y ait d'impératif.
Okay.
J'ai pas d'impératif, moi, je suis pas le genre à dire surprends-moi, pas du tout, mais je suis le genre à dire bah, on va se laisser aller et on va voir, quoi.
Okay.
Non, j'ai pas d'impératif, j'ai pas d'exigence, c'est simple, j'ai pas envie qu'on ait d'exigence avec moi. Donc, je ne vais pas, moi, avoir des exigences. Alors que moi, s'il y a une exigence sur moi, mais la porte, elle est derrière. Dégage, quoi, tu vois. Donc
mais qu'est-ce qui va... En fait, pardon, j'ai du mal à comprendre. Mais qu'est-ce qui va te faire regarder Nana ou la désirer? Qu'est-ce qui va être le...
Ah, ok.
C'est ça, pour la question.
Bah oui, c'est parce que là, tu dis c'est open pour
parce
tout le monde.
C'est-à-dire que toutes les nanas
cool.
qui passent, c'est... potentiellement, tu vas aller passer du temps avec elles.
On a beaucoup ri sur ça. Il y a une invitée qui nous a fait la blague et j'ai dit oui, je crois, à un moment. Je ne sais plus sur quel épisode et c'était exactement ça. Et tout le monde a ri très fort parce que c'était un très gros si. Une des choses qui me plaît le plus et que maintenant je le sais, je peux le formaliser.
Tu vas le dire.
C'est le désir de l'autre.
Ah.
C'est-à-dire que si on est là quelque part et que je sens dans tes yeux que t'as envie et que c'est dirigé vers moi, pas juste t'es une dalleuse, hein, tu vois.
Oh, oui.
Wow, non, mais je fais la différence. Okay.
C'est juste, d'accord. Voilà, t'es quelqu'un qui a envie
de ou qui a le truc. D'accord. Et ben, ça, ouais, de savoir
de
que je. Que
allume
le, ouais,
ton
le désir.
Désir,
ouais, c'est ça, de savoir que je suscite ce désir, ça, ouais.
Ça, c'est hyper bien. Parce
c'est
que
c'est un élément moteur.
Souvent, c'est l'inverse. Tu sais, il y a ce truc, enfin,
oui, dans les rapports hommes-femmes.
Ouais. Et vraiment, et quelqu'un à qui je ne plais pas et qui je sens que je ne plais pas, ah, ça ne me plaît pas du tout, en fait.
Ah,
je
oui?
suis un, ah mais je suis
incapable.
Alors
beaucoup d'hommes, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont courir
ah,
après.
Non. Oh okay. là là, moi, je ne cours plus, moi.
Oh. je suis fatiguée.
non, non, moi, je...
Ok.
Non. Mais vraiment, c'est un truc, ça me, c'est un coup, truc ouais. que j'ai, du coup, que je peux, que j'ai identifié.
Ça y est, ouais.
Effectivement, il faut que je sente la réciprocité. Donc après,
enfin,
effectivement,
plus que la réciprocité, non, genre l'appel.
Ce que je veux dire, c'est qu'au début, il va peut-être y avoir. Non, mais on se connaît. Si tu veux, il va y avoir un range assez large, du coup.
Ok. Ok.
Pardon, mais c'est parce qu'on se connaît, il y a le sous-texte avec oui. excuse, c'est pour ça.
Donc quand je vais arriver quelque part, effectivement, il peut y avoir un
tout
scan
type,
de toutes les
façons. De,
tu vois.
Ok.
Il n'y a pas de frontière en termes de style, de
d'âge,
de...
Mais non, mais c'est génial, c'est pas difficile.
De typologie, quoi.
La ligne. Pensez à tous les mecs qui disent, non, mais... comme ça, comme ça, comme ça.
Et en fait, mon match va se faire ouais. sur celle sur
qui te désire le plus.
Il y a une réciprocité ou pas. C'est même pas une question de désir. C'est
d'accord.
juste... Après, c'est aussi, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas sur appli. Moi, je sais que quand je regarde tout. Et je regarde ce que je ne vois pas, en fait. Mais genre, la manière dont tu marches, la manière dont tu tiens ton verre, la manière dont tu parles, okay. tous ces éléments auxquels tu ne fais pas vraiment attention, mais qui composent
d'accord.
une image en entier. Et c'est ça qui va me toucher. Et dans ce truc-là, ben, il y a des matchs qui vont se faire où il y a la manière dont on va se déplacer, peut-être juste la manière dont on va se croiser le regard un peu plus longtemps que sur cette personne qui est peut-être plus jolie, mais sur toi, on a croisé le regard un peu plus longtemps. Ben, du coup, c'est peut-être sur toi que je vais aller parce qu'il y a eu ce point de départ, cette curiosité réciproque. Et après, on voit, de toute façon, tu sais ce que c'est. Hein, tu sais pas ce que c'est, mais tu t'y vas, tu te jettes à l'eau, tu vois ce que ça donne. Soit tu nages
savoir ce que c'est.
300 mètres. Soit... Non, mais je veux dire, actuellement, quoi.
Bien sûr.
je transpire, attention.
Wow. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que j'avais, je crois pas de mémoire avoir eu des invités qui me racontent ça. Au contraire, ils sont... Souvent, il y a un catalogue très, tu vois, enfin, presque parfois, on dirait, tu sais, des portraits robots, quoi.
Ouais,
les yeux, ouais. les jambes, le ça, la taille, le physique, non. le truc. Enfin, et du coup, ça enlève un nombre de personnes incalculables. Et je sais pas si ces gens sont très heureux, mais en tout cas, j'ai souvent plus ce type d'homme. Et toi, Dan?
Bah, le
tu
truc
fais partie
portrait,
de ces hommes.
Non, le portrait robot, j'aime pas parce que moi, c'est pas vraiment un portrait robot, mais je dirais quand même que je suis l'exact inverse de Pascal. Mais par contre, je pense que j'ai pas de portrait robot. C'est très bizarre, en fait. C'est très alors en vrai, je suis relou, je suis difficile et j'ai plein de critères, quoi. Mais notamment sur le physique. Mais en fait, je me rends compte aussi avec le temps que maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelqu'un qui est cérébral et qui est en fait qui est cérébral sur les mêmes ondes que moi. Et en fait, ça. C'est peut-être juste une autre façon de raconter ce que toi tu dis, Conny, sur le fait qu'on a des mêmes références culturelles, qu'on a peut-être
les
un même
valeurs,
background,
ouais.
un background scolaire ou d'études, les mêmes valeurs aussi, sans forcément qu'on se le dise. Et les mêmes codes culturels, donc les habits, les sorties, voilà, typiquement les expos, les trucs comme ça. Et c'est ça, en fait, qui va, moi, m'émoustiller. Où je vais me dire, ah ouais, tiens, franchement, cette meuf-là, elle est trop bien, elle connaît ça. Et en plus, elle ressemble un peu à tel type de personne. Donc,
t'arrives à définir, moi, c'est, je trouve ça toujours intéressant d'aller un peu loin dans la mémoire, mais je ne sais pas quels sont tes critères physiques, mais t'arrives à définir à quel moment ça s'est dessiné.
Comment c'est
critères,
né
ouais.
Bah, je pense que c'est né parce que j'allais tout le temps un peu dans les mêmes bars avec mes potes, et il y avait un style de meuf dans ces bars-là. Et
okay.
c'était exactement le même style que maintenant. J'essaye de choper, quoi. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est... Alors, je sais pas si c'est la raison ou pas, ou si c'est la cause, mais c'est vrai que pour le coup, ça me fait marrer, parce qu'en effet, je suis complètement
ouais,
à l'inverse de Pascal.
Incroyable,
parce que
hein.
Moi, c'est typiquement, je vais vraiment rentrer dans une pièce, et toi, on va dire, toutes les meufs te plaisent, moi, il y en a aucune. Et je vais me dire, tiens, il y en a peut-être une qui me plaît, mais vite fait, quoi.
Mais je trouve ça
mais
génial.
C'est trop bien d'être comme lui, quoi.
Je trouve ça extraordinaire. Non, mais même
c'est
le mindset dans lequel t'es.
Mais c'est
je
trop
trouve
bien.
Ça incroyable. Mais tu pousses une porte et tu dis potentiellement. tout le monde peut me plaire. Je trouve ça incroyable.
Bah oui.
Mmh. Bah, c'est absolument génial.
Quand même. Enfin, on a les experts de vie. On sait, tu sais bien que une personne que tu peux trouver quelconque, à partir du moment où tu commences à discuter avec elle,
ça change.
Elle peut devenir magnifique.
Bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord.
Et tu peux coucher avec la fille la plus belle du monde et tu t'en as rien à foutre.
C'est pour ça que
elle te plaît
philosophiquement, Pascal a davantage raison.
Ouais, mais je suis pas d'accord.
Mais je comprends aussi que
elle peut devenir. Moi, je peux trouver quelqu'un magnifique, mais j'ai pas forcément envie d'être avec. Tu vois. Là, on parle quand même de la femme idéale pour moi.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est là où je suis. En fait, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je suis d'accord avec Connie aussi, enfin avec toi Connie, parce que moi je pense que en effet, t'as quand même des critères. Même si moi, il y a plein de meufs que je trouve hyper belles, mais c'est pas pour autant que je vais la recourir après, parce que je me dis de toute façon, en fait, je les trouve juste belles, mais après, on n'aura rien à se dire, il se passera rien du tout.
Je comprends. Ok. Mais c'est intéressant, c'est des points de vue différents. Est-ce qu'il y a quelque chose de très rédhibitoire chez les femmes pour vous?
Bah toi, parce qu'elle a rien. Quoi.
si elle te désire pas.
C'est si elle te désire pas quoi.
Physiquement, non.
Non.
Physiquement, non, je pense pas qu'il y ait grand chose de rédhibitoire.
C'est incroyable cette ouverture.
Après, non, ça va être dans la personnalité, quoi.
D'accord.
Enfin, pas dans la personnalité, dans l'entente entre les caractères.
Si elle voit très à droite, ça, c'est compliqué.
Ça dépend de quelle droite, ça.
Mais tu peux essayer de... Non, mais tu peux essayer de la convaincre. Si elle voit très à droite, tu peux essayer de la convaincre.
Ouais.
Tu peux pas le faire.
Tu peux la convaincre.
Bah oui, ouais, t'essaies de la convaincre. Ça peut être un game.
On a fait des podcasts, on sait qu'on peut pas changer les gens là-dessus.
Ouais.
C'est dur.
Ouais.
C'était quoi ta question déjà?
C'était quelque chose de rédhibitoire.
Si je la trouve bête, c'est mort.
Bête.
Ah ouais.
Elle peut être la plus belle du monde.
Elle peut être tout ce que tu veux. Ouais. Si je la trouve bête, c'est mort. Mais c'est mort.
Et je vais dans ce sens-là et en fait, c'est mort physiquement.
Tout.
C'est-à-dire que si vraiment je la trouve bête, le sang, il va pas y aller quoi.
Ah ouais, mais
c'est-à-dire je peux être en, tu vois, je peux être en panne totale parce que t'es bête quoi.
Ok.
Je suis d'accord avec toi.
C'est pas du tout. Après, faut définir la bêtise. Hein,
oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est je la trouve bête.
Oui, oui, okay. Si c'est subjectif aussi.
C'est assez subjectif. En fait, quand tu dis bête, c'est juste que t'es vraiment sur deux parallèles. Donc il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de moment où tu peux te croiser et te trouver des points d'accroche. C'est juste sur deux univers différents. Puisqu'une fille que je vais, moi, grossièrement qualifier de bête, elle va probablement dire la même chose de moi, puisque justement, je suis sur cette ligne à laquelle elle n'a pas accès.
Ou quelqu'un d'autre la trouvera très intelligente.
Tout à fait, absolument.
Moi, je dirais, oui, ce que vous avez dit déjà, mais moi, j'ai deux, trois expériences avec des meufs qui avaient un grain de folie.
Okay.
Mais pas le bon grain de folie, parce qu'il y a le bon et il y a le mauvais. Quoi. Il y a le bon et il y a le mauvais. Quoi. Et du coup, quand il y a le mauvais grain de folie.
Un peu névrotique, quoi. Compliqué.
Ouais, c'est un chaud, peu ça. Violente, névrotique. Ah ouais. Et ça, en fait, c'est malheureusement. Ça peut être des personnes géniales quand elles sont calmes, mais si elles partent en couille, entre guillemets, en fait, c'est hyper rédhibitoire, parce qu'en fait, tu te dis à aucun moment, en fait, je peux me projeter avec cette personne, parce que. En fait, elle peut péter un câble à tout moment. Enfin, en vrai, pour moi, ça, c'est vraiment un gros red flag. Et c'est pas possible, en fait, à ce stade-là.
Je vais vous poser la dernière question, vraiment perso-sexo. Et après, on parlera un peu plus des épisodes et ce qu'ils vous ont apporté. Est-ce que vous auriez...
Je regarde
Connie parce que je sais que... Ouais, c'est... Est-ce que vous pourriez me raconter une anecdote sexuelle que vous avez vécue, la plus folle, la plus dingue, la plus... qui vous reste la plus en mémoire? Mais Connie, je ne sais pas si tu voudras raconter.
Bah, si c'est avant.
T'as le droit. tu peux passer cette question. J'aurais dû
oui,
faire
on
des cartes.
On est là pour se couvrir.
Toi, Pascal, il y en a beaucoup, non?
Bah, la plus dingue, je ne sais pas.
La plus dingue.
Ça veut dire quoi? Une marrante, en fait.
Franchement, j'ai tellement écouté des trucs. Ouais, mémorable. Merci, c'est très bien ce mot.
Moi, j'en ai une, si vous voulez.
Ah, merci.
Ah, vas-y, Dan, parce que là...
Je vais réfléchir pendant ce temps-là.
Ouais, vas-y.
Tu veux que je raconte?
Bah oui.
Donc, il faut que je remette un peu dans le contexte, mais je crois que tu connais cette histoire, Pascal, c'est... non, t'es pas dedans, mais...
J'allais demander, est-ce que parce qu'elle était là?
Je vais enlever plein de trucs, mais il s'avère qu'il y a une quinzaine d'années, en fait, avec un pote à moi, on faisait des vidéos sur YouTube.
Oh là là là.
Et en fait, on avait fait une vidéo, on s'était déguisé en Père Noël. Je raconte pas beaucoup, mais voilà.
C'est génial.
Tu connais l'histoire?
Ah, bien sûr, elle est magnifique.
Et du coup, donc on fait cette vidéo qui tourne un peu. C'était à l'époque où c'était un peu les débuts de YouTube et tout. Donc on avait une petite hype et tout. Et donc, à ce moment-là, donc moi je sors beaucoup en soirée parce que j'étais fraîchement célibataire. Et je rencontre une meuf qui est un peu dans le même milieu que moi, machin, très branchée et tout. On sort et tout. On se voit une fois, je crois, en soirée. Après, on reprend un verre. Donc je me dis, tiens, je pense que je lui plais et tout. Et je crois la troisième fois, je lui dis, bah viens, on prend un verre et puis après on va chez moi et tout. Donc on va chez moi, on s'embrasse, ça se passe bien, ça monte, l'excitation monte, on commence un peu à se déshabiller, machin. Et moi je me dis, bon bah là c'est trop bien, on va se pécho, on va coucher ensemble quoi. Et à un moment, on est en plein, tu sais, en train de s'embrasser. Moi, je suis en train limite d'enlever mon pantalon, machin. Et là, elle commence à me regarder, genre très sérieusement. Elle me dit, mais attends, mais tu crois que tu vas me niquer? Je crois qu'elle m'a dit ça. Bon, c'est un peu vulgaire, mais elle me dit, tu crois que tu vas me niquer? Et tu sais, genre, elle me casse comme ça, quoi. Et je lui dis, mais je sais pas, je pensais que, tu vois, je suis complètement décontenancé, quoi.
Je sais pas.
Tu vois, je suis un peu décontenancé, quoi. Parce qu'elle me dit, mais tu crois que tu vas me niquer? Elle me dit, mais c'est pas toi qui vas me niquer, c'est le Père Noël qui va me niquer.
Et du coup,
après, elle éclate de rire et tout, mais elle me dit, écoute,
mais elle est sérieuse.
Elle me dit, écoute, moi, je suis à fond.
Oh, le daddy,
bah, elle me dit, moi, je suis à fond. Maintenant, elle me dit, tu vas te mettre dans le rôle. Moi, okay. Je vais me mettre dans le rôle et on va faire ça. Et c'est elle qui drive le truc.
Oui.
Elle est en mode, tu vois, très dominante, elle drive. Mais okay. Moi, en fait, je suis un peu aussi en mode. Okay. Je me rappelle à l'époque, en plus, je sortais de ma première relation longue, je découvrais un peu. De pécho plein de meufs et tout, c'était vraiment mes débuts un peu de dragueur, donc je suis à fond. Et là vraiment elle veut mettre le truc en scène, tu vois, elle me dit ok bah tu sors, tu mets dans ton déguisement, tu toques à la porte. Et elle était sur le lit et du coup elle me parle genre oui Père Noël et moi je lui dis voilà, est-ce que tu as été sage cette année? Elle me dit non Père Noël, je n'ai pas été sage.
Oh, wow,
voilà.
Et...
Et okay. Voilà, et après, donc voilà. Et après, on a passé une super soirée.
Ah bah, j'imagine.
Et
ah
ouais. C'est trop marrant parce
donc,
que.
Jeu de rôle, quoi.
Jeu
vraiment,
de rôle. Et en fait, donc, le lendemain, je crois, parce qu'on s'est revus, on s'est fréquenté un petit moment. Et elle m'a expliqué que. Enfin, voilà, elle m'a expliqué que c'était son grand truc, que les mecs précédents, elle leur avait demandé de se déguiser en pompier,
okay.
Machin.
Elle
voilà,
les...
c'était.
Okay.
Elle, adorait, elle adorait scénariser, quoi. Wow. Mais moi, je t'avoue, c'était la première fois. Et en plus, c'était trop.
Noël,
c'était trop marrant parce que voilà, et tu vois, j'avais ce personnage que j'avais un peu incarné. Je pense que elle, ça lui avait tapé dans l'œil, elle avait trouvé ça marrant. En plus, je crois que c'était vraiment à la période de Noël, donc j'avais
parfait.
Vraiment le déguisement sous la main et tout. Donc, enfin voilà. Les planètes se sont alignées, c'était un très beau souvenir.
La
et si jamais
Noël.
Elle nous écoute, je l'embrasse. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle est mariée, elle a des enfants et tout. Donc,
okay.
je t'embrasse si tu nous écoutes. Je ne dirai pas ton prénom,
mais c'était ouais, ok, très sympa.
C'était quoi ta question déjà?
Une anecdote un peu
l'anecdote
un peu
la plus mémorable.
La plus mémorable.
Moi,
j'ai pas. J'ai...
Non.
Non, mais de quelle gamme tu veux, dans
mais
quel genre
que
tu veux aller, tu vois, sur du cosplay.
Tu devais déposer un truc chez un pote et tu t'es retrouvé à se taper, à te taper sa meuf. Sa meuf. Tu vois, et
on n'a pas le droit dans ce podcast.
Bien sûr. Ah bon. Mais j'étais en train de boire, j'ai fait
deux.
Voilà,
non, mais je sais pas.
Les deux.
Pascal,
sa mère et sa meuf qui étaient là.
Écoute. Les deux en même temps.
Non, mais j'en ai eu des. Incroyable, mais toi, laquelle.
Oui, mais du coup, est-ce que moi, je sais pas, j'ai pas de. Oh, qu'est-ce que je peux te raconter d'incroyable? Je sais pas. En fait.
Il y a des histoires quand même. Que...
Mais
après,
c'est
après je sais pas ce que tu peux dire.
J'ai des histoires.
Il y a des histoires, toi, quand même, aussi, des histoires un peu salaces.
Mais j'en. Pas... Enfin, tu vois, c'est pas plus salace. Enfin, je trouve pas ça incroyable, en fait, mes histoires.
Toi, oui, mais toi, ce qui t'a paru à vivre, tu vois, enfin, je veux dire, le souvenir du Père Noël est quand même.
C'est un beau souvenir.
J'imagine.
J'y pense tous les ans.
Une période pour ça.
En vrai, les trucs vraiment incroyables, je pourrais pas les dire au micro.
D'accord.
Je pourrais vraiment pas les dire. Je peux vous les dire en micro.
Juste
je pourrais
en
pas vous les dire.
Genre un souvenir dingue.
Il y a Nego là.
Un souvenir dingue.
Et toi, Connie, t'as réfléchi?
Ouais, moi, je te dis, c'est horrible. Hein. Mais je sais que j'en avais des histoires comme ça, comme celle de Dan que je racontais à mes potes.
Ouais.
Mais je les ai oubliées parce que ça fait tellement longtemps.
Ah ouais.
Tu sais quoi? Je me dis, on en discute, on rigole et tout avec les copains. Ça fait tellement longtemps que je couche avec la même fille que j'ai aucun souvenir de ce que c'est de corps d'une autre.
Ok.
Tu vois le truc?
Tu te rappelles pas du tout?
Non, j'ai des souvenirs des trucs, mais le souvenir de la sensation m'a échappé.
Ok.
Vous voyez le truc? Et ces histoires marrantes comme ça.
C'est relou, faut que tu réessayes, franchement.
Putain, Dan.
Noël prochain peut-être, je sais pas.
Noël prochain, moi je te passe le déguisement, mais franchement.
Je vais te faire une réponse, tu vois, digne de Dan, quoi. Mais En fait, comme chaque fois est incroyable.
Wow. Ah yeah, il est fort.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme chaque fois est incroyable, chaque anecdote.
Non, non, mais parce que tu vois, je te dis ça parce que si je repense à mon présent, ben je trouve que c'est incroyable.
Et en fait, t'as pas une histoire de cul de ouf à raconter pour faire rire les potes que tu peux pas raconter là, ok.
Je peux pas te raconter là.
Ça y est,
moyen. Je peux pas te raconter.
Non, mais c'est
question, enfin.
Je sais pas.
Je peux pas.
Un plan à plusieurs qui était rigolo, un truc.
Je peux pas. J'en ai qui viennent, mais je ne peux pas.
Parce que ça implique forcément quelqu'un autour de la table.
Eh oui,
ça... qui en plus est marié depuis 20 ans. Donc,
ou les ex de certains aussi. Parce qu'il y a du passif. Moi aussi, tiens, juste un tout petit truc. Non, mais c'est un tout petit truc.
Mais quand même.
C'est que j'ai eu la chance d'avoir une relation avec une fille rousse et pulpeuse.
Ok, c'était pas moi.
Qui n'était pas autour de la table.
Calmez-vous.
Et honnêtement, parce qu'on parlait de. Je comme Pascal, c'était un idéal, mais.
Bien sûr.
Ma femme n'est pas rousse et pulpeuse, tu vois. On se comprend. Et en fait, c'est extrêmement satisfaisant
de
pouvoir coucher et voir, voilà, c'est une petite relation rapide, mais avec une fille qui,
idéal.
Physiquement, du haut jusqu'en bas, vraiment te...
Ouais.
Tu vois le truc? Et pour le coup, elle a été vraiment...
C'est vrai que
c'est pas
si fréquent que ça, hein, de coucher avec quelqu'un où tu te dis, genre, en fait, c'est exactement la
fille. Et à chaque fois, je me disais...
J'ai tellement pas cette lecture en fait, mais non, puisque c'est la situation. Donc
oui,
j'ai pas besoin qu'elle soit
raison,
ouf, en fait. J'ai besoin
aussi.
Que la relation qu'on vit et ça rend la fille ouf.
Mais je peux comprendre aussi.
Mais il y a aussi le truc, il y a un truc d'âge aussi peut-être.
Oui, bien sûr, ah bah oui.
C'est ça.
J'ai pas la même lecture.
Quand t'as 20 ans, t'as des fantasmes sur la meuf.
Et puis il y a des trucs à faire, c'est con, mais il y a des cases un peu à cocher, tu vois.
Mais tu vois, j'arrive pas à me souvenir trop de. Je suis désolé, j'ai pas de trucs incroyables à dire en plus. Vraiment, je.
Tu me le diras hors micro quand même.
Ouais. Non, mais j'ai peut-être aussi une sexualité complètement banale, hein, tu vois, c'est peut-être ça. Quoi.
Ok, pour revenir un peu aux épisodes des gentilshommes, quelle est votre définition à chacun de la virilité?
Alors, vous voulez que je commence?
Ouais, bah vas-y.
Pour moi, la virilité maintenant, après avoir fait 6 ans de gentilshommes, c'est être un mec à l'écoute. C'est en fait c'est être à l'écoute, c'est être dans l'écoute, dans la compréhension, mais pas seulement des autres femmes, en fait des autres hommes quoi. Mais pour moi c'est vraiment ça. Enfin c'est comme ça que moi je m'imagine. Enfin je sais pas trop ce que ça veut dire virilité, mais je pense à l'homme un peu viril, c'est l'homme on va dire idéal peut-être dans la tête de plein de gens. Et je me dis l'homme idéal en fait c'est surtout de ce qui ressort de tous les épisodes qu'on a fait, c'est un mec en fait qui déjà écoute l'autre, qui est attentionné et qui en fait essaye de en fait de comprendre l'autre quoi.
Okay.
Voilà, Bonnie, c'est un peu peut-être une réponse à la con hein,
parce
mais...
qu'elle ouais. a l'air dubatif.
Non mais pour moi la virilité c'est un concept assez étrange. Moi je me sens pas du tout viril, je me suis jamais particulièrement senti viril au naturel, au quotidien. Je me sens pas, tu vois, à la limite virilité j'associerais ça à des mots comme le fait d'être balèze ou le fait d'avoir une espèce d'assurance en soi liée à l'évolution de son corps dans la société, tu vois, c'est dans la démarche, dans tout ça, et je me sens pas particulièrement viril, mais dans des situations je pense que je peux l'être. Donc la virilité c'est quoi? Je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que c'est. Et en plus, en ce moment, avec tous les discours qu'il y a, où du coup, il y a beaucoup de blabla autour de ça, c'est comme si, c'est comme ça. Au final, j'en sais rien du tout. Tu vois, le mot virilité est toujours associé à quelque chose de très toxique, alors que je pense que pas forcément, en fait. C'est la virilité mal placée ou au mauvais moment ou au mauvais endroit qui peut être toxique, mais en soi, c'est pas...
Mais toi, tu te sens pas viril?
Pas particulièrement. Enfin, là, autour de cette table aujourd'hui, je me sens pas viril, mais par moment, dans le cadre de certaines relations, même pas forcément intimes, mais il y a des moments où je me dis, ouais, je suis viril et si madame, tu veux un homme viril, tu vas l'avoir.
Pour moi,
quoi.
le mec viril, c'est le mec qui gère, qui règle les problèmes, qui, en fait, je dirais celui autour de la table, pour moi, qui l'est le plus, c'est Connie. Pour moi, c'est le mec qui incarne le mec qui va gérer, quand il y a des merdes, qui gère les merdes. Un peu le bon père de famille, quoi. Mais le mec qui. Et c'est pour ça qu'il fait rêver plein de gens, des meufs, des mecs, parce que tu sais que tu peux compter sur lui. Et pour moi, c'est ça le mec viril. Et toi, Pascal, t'es hyper viril dans le sens où tu gères ta vie, tu gères tes gamins, tu gères un milliard de trucs. En fait, c'est ça qui pour moi, est, tu vois, c'est quand t'es solide.
Ouais, mais je les gère comme n'importe qui. Je veux dire,
il y a plein de gens virils, c'est tout.
Les meufs aussi meufs gèrent virils, ça, en fait. Il y a des meufs qui gèrent aussi bien que moi, hein, qui font la même chose que moi. Et,
après, c'est comme ça que moi, je vois la vie. Parce que le côté juste un mec avec des gros bras, c'est pas viril, en fait.
Ouais. Mais je
c'est,
suis,
c'est
ouais.
pas, tu vois, c'est ça fait pas rêver, quoi. Enfin, après, si ce mec-là.
Je suis d'accord avec toi.
Si ce mec-là, il gère, il est viril. Mais je veux dire, juste s'il fait de la muscu, on s'en fout.
Ouais, on a envie de changer de définition, on a l'impression. Avant, viril, c'était t'as les poils qui dépassent. Là,
bah oui, mais la virilité, barbus, c'est juste de gérer les problèmes.
Et en fait, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est, j'ai l'impression que on est peut-être un peu en train de changer de définition. Enfin, on a envie de changer de définition. Et moi, je rejoins mes camarades. Ça dit quoi l'assurance de gérer les trucs et tout. Mais
on peut compter sur toi.
Il y a un truc, il y a encore des histoires de trucs de place de l'homme là-dedans. Hein. On va pas se mentir. Il y a un truc de bah ouais, t'es un mec et tu gères, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ouais, on est en train de se dire, bah ouais, une femme aussi, elle peut être virile dans le sens où gérer, c'est pas que à la portée d'un homme et tout. Mais on se traîne encore quelques idées reçues, quoi.
Et toi, tu te sens viril?
Eh ben ouais, moi, bizarrement, ouais. Viril dans ce sens-là, c'est parce que ouais, je gère ma famille, je gère mon boulot. Alors, on gère à deux, hein, on s'entend. Mais, et puis surtout, il y a un truc d'âge. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être arrivé à un moment de ma vie où la maturité fait que je commence à comprendre un peu ce qui m'entoure. Et je commence à comprendre les trucs. Le podcast aide aussi.
Ouais, j'allais vous demander après cette
question. Voilà, on y reviendra après. Mais tu vois, la compréhension de ton environnement, ton métier, ton milieu professionnel, ta famille, les liens entre les gens, les intérêts. Le jour où, on en reparle après dans la question d'après.
Elle est juste après, donc. C'est ça. Qu'est-ce que le podcast vous a apporté à titre perso?
Bon, bah alors
250 épisodes.
Je continue. C'était
bien
pour
sûr.
Le voilà.
Merci pour en la fait, transition. Parfait.
On dirait de la radio française.
Wow.
un truc que j'ai vraiment que je connaissais, mais que je suis maintenant que j'ai acquis, c'est de comprendre les points de vue des autres. Et de se mettre à leur place. C'est un truc que j'avais compris, parce que j'avais une partie commerciale dans le boulot que je faisais quand j'étais indépendant.
L'empathie ?
Non. L'empathie, ça, au-delà de l'empathie.
D'accord.
C'est-à-dire comprendre le point de vue des gens. Okay. L'empathie, ça vient,
pas
ça
que
vient
le
après.
Ressentir. Okay.
Ça vient après. D'abord, parce que l'empathie, c'est toi que tu touches. Donc, tes sentiments, si tu te prends un truc dans la gueule, ça peut faire mal. Donc, la première étape, d'abord, c'est qui j'ai en face de moi, c'est quoi son point de vue, c'est quoi ses intérêts. Vous voyez, ses intérêts, c'est un peu violent dans le podcast, on n'est pas jusque-là, mais c'est quoi son point de vue? Et en fait, c'est un truc que j'avais commencé, donc je disais, à comprendre, parce que j'étais commercial, j'étais indépendant. Donc il fallait que je me dise, quel est le point de vue, quel est l'intérêt de mon client? Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, quand on arrive à se dire, et là dans le podcast on a dit, mais ces gens viennent avec des points de vue, des expériences de vie, des histoires qui sont les leurs, et que si on ne les écoute pas ou comme ça, on peut les juger sans problème. Tu peux dire cette fille elle c'est une salope, elle c'est une abrutie, elle a rien compris au mec, elle s'est fait avoir, tu vois ce que je veux dire? Tu peux juger très facilement. Et puis en fait, quand tu commences à écouter et te dis ouais mais il y a ça, et puis tu dis ah, mais attends, t'as fait comme ça vraiment et tout, non mais attends, c'est pas possible que t'aies fait comme ça. Si, j'ai fait comme ça, mais pourquoi t'as fait comme ça? Et là tu dis mais en fait il y a des raisons et il y a des choses, des explications, tu vois, et que les gens sont pas, d'une manière, ils sont pas cons, ils font des conneries, on fait des conneries, mais ils sont pas cons les gens. Tu vois? Et donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, ces gens ont des points de vue et tu peux plus juger de la même manière. On en a parlé dans le dernier épisode. Moi, j'ai un gros doute sur le jugement encore. Je pense que, on est sans jugement, etc. Oui, quand t'arrives, t'as pas de jugement. Mais le jugement fait partie de la vie. C'est comme ça que tu prends une banane qui est pas pourrie, mais tu prends l'autre quand tu vas. On est dans le jugement tout le temps.
Oui, mais il y a le jugement et l'expression du jugement.
Alors. Oui, mais bien sûr. Mais tu peux garder le jugement dans ta tête aussi, tu vois. Et il existe quand même, tu vois. J'ai appris, moi, avec le podcast, à modérer mes jugements, tempérer mes jugements.
Pour arriver à un niveau de sagesse assez haut pour être capable de ne pas juger.
Alors, pas juger...
Enfin, tu vois, même avec toi-même, sans le verbaliser.
Alors,
hein.
Pas juger, je pense que tu te mets en danger, pour de vrai.
Ok.
C'est-à-dire que si tu ne juges pas à un moment ou à un autre... Ça veut dire que tu prends tout ce qui arrive, tu vois. Attention, on se comprend, dans le podcast, jamais la fille elle vient et dit « j'ai fait ça », je lui ai dit « mais t'es une grosse conne ». C'est jamais de la vie. Enfin, d'ailleurs, c'est exactement ça qu'on apprend avec ce podcast. C'est que quand quelqu'un dit un truc, ton premier réflexe, c'est de dire « mais t'es une pauvre abruti ». Et puis en fait, tu l'écoutes et tu dis « mais non, en fait, t'es la victime de ça, t'as fait une erreur, t'as fait truc, et maintenant t'es un être humain. Tu vois? Et en fait, ce qu'on a découvert dans, enfin, ce qu'on on a découvert dans le podcast, c'est qu'en fait, on est tous des êtres humains, et au-delà des questions de genre, qu'on nous rabâche, etc., on est tous des individualités. Alors ouais, t'as des injonctions quand t'es une femme, t'en as d'autres quand t'es un homme, on n'est pas égaux, personne n'est égaux, mais déjà à titre individuel, on n'est pas égaux. Je sais plus, il y avait cette blague de Coluche.
Les hommes entre eux ou...
Elle a fait cette blague de Coluche qui dit les hommes naissent libres et égaux. C'est au moment, c'est juste après que ça devient la merde.
Ouais,
quoi.
Ouais,
c'est ça. Après que ça se gâte. Ouais, il disait, bon, c'était une blague des années 80 qu'on peut plus sortir aujourd'hui, malheureusement. Je plaisante.
À moitié.
Donc, c'est ça le gros apprentissage. C'est qu'on a des êtres humains, et comme c'est des êtres humains, le jugement ne se fait pas de la même manière.
Okay.
Et il y a des personnes qu'on a rencontrées qui ne m'ont pas plu. Il y a des gens que j'ai adorés, tu vois. Et si elles ne m'ont pas plu, humainement, c'est parce que j'ai un jugement. C'est-à-dire qu'après 30 minutes d'entretien, je me dis, cette personne ne serait pas ma pote, par exemple. Tu vois ?
Ça peut être juste un plan cul, quoi.
Par exemple. Tu penses qu'elle posera la question, est-ce qu'on s'est tapé des auditrices plus tard? Parce que c'est tout le monde nous la pose, cette
alors,
question.
En fait,
ça fait pas partie de tes questions.
J'avais demandé sur l'Instagram de On The Verge des questions de vos auditeurs, et effectivement, elle est beaucoup revenue, cette question.
Vrai,
donc, j'ai décidé de ne pas vous la poser, parce que vous n'y répondez pas. Enfin, à part les blagues de Dan, on dit que...
On dit qu'il ne s'est jamais rien passé.
Voilà.
Donc
mais c'est pas une blague.
Je dis une blague, mais je veux dire le.
Non, mais c'est parce qu'on rigole, mais c'est vrai. Parce que la question a été posée en public. Donc, on était en train d'enregistrer notre dernière. Il y avait 150 personnes dans la salle.
Bon, on a dit que la vérité, on a dit que ça ne s'est jamais arrivé.
Ouais.
Ok.
Wow, je suis désolé, j'ai paniqué.
Ça va pas être possible avec ça. Moi, je vais pas couper.
Mais non, mais
tu vas pas couper
exactement.
Non, mais il y a pas à couper.
Il y a pas à couper.
Moi, en tout cas, il y a pas à couper.
Et vous, le podcast vous a apporté quoi à titre perso?
Bah, je pense, Connie, t'as déjà beaucoup dit. Oui, le fait de pas juger les gens. Je pense que après, il y a aussi. Moi, je pense que j'ai pas mal mûri dans les 6 ans, et pas que à cause du podcast, aussi à cause de la vie, quoi. Et je me rends compte que le mec que j'étais au début, parce qu'on a montré une photo justement à la soirée, et de nos tout débuts, enfin du premier enregistrement, et je me suis revu, je me suis dit waouh, je pense que j'étais vraiment un gamin encore dans ma tête, et je comprenais beaucoup moins les gens. Enfin, je dis pas que je comprends maintenant les gens et tout, que j'ai tout compris, mais je pense que j'étais beaucoup plus dans le jugement. Et en fait, je me disais, je mettais les gens dans des cases, quoi. Et je pense que plein de gens le font. Hein. Mm-hmm. Genre, lui, c'est un séducteur, elle, c'est une séductrice, gnagnagna. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, ça dépend de plein de trucs, ça dépend des rencontres. Ça. Tu peux être dans un couple pendant 10 ans et après devenir un gros banger ou inversement. Enfin, tout est possible, en fait. Et il n'y a pas de truc, tu vois, où les gens sont dans des cases. Et en fait, comme disait Connie, en fait, ça nous a vraiment permis de ne pas juger les gens, et de les prendre tels qu'ils sont, et d'écouter leur histoire, et d'essayer justement d'avoir cette pudeur, et en fait de pas être... Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'émissions, alors c'est plutôt les émissions un peu à l'ancienne, les trucs qu'on écoutait quand on était gamin, genre Love and Fun et tout ça, il y avait toujours quand même... Alors je sais pas, il y avait des trucs bien, hein, mais il y avait quand même toujours un peu de jugement, genre ah oui, et toi alors, machin.
Ouais. Souvent par les vannes.
Il faut faire gaffe. Alors nous, on fait des vannes, mais on essaye.
Qui me fais vanner, mais en général, on n'a jamais vanné.
En fait, on vanne pas du tout, et en fait, on essaye surtout pas d'être dans le jugement. Enfin, jamais d'être dans le jugement.
Parce qu'une vanne, ça juge.
Chacun a le droit de.
C'est pas si agressif, c'est hyper dur.
Chacun a le droit s'il est en galère ou s'il est pas en galère ou machin, s'il charge. Je sais pas, en fait, il faut pas juger, quoi.
Et chacun vient avec son bagage, donc bien sûr.
Le truc des vannes, c'est vraiment un truc qu'on a dit dès le début, hein. C'est un truc qu'on a mis en place.
C'était une.
Non, mais conduite, quoi. On a dit les blagues faciles et tout, on va pas faire ça.
On fait ça entre nous, nous on se vanne.
Ouais, mais même les vannes entre nous, elles sont venues au bout d'un certain temps. Oui, dans les premiers épisodes, on avait vraiment cette volonté, pas d'être sérieux, mais en tout cas de faire un truc vraiment propre, en fait.
Ouais, je comprends.
Et pas de rentrer et de se dire, on va faire des blagues hyper faciles, en fait, c'était. Au début, maintenant on le fait spontanément. Maintenant c'est vraiment spontané, mais au début ça faisait partie un peu de l'exercice.
Mais encore une fois, on vanne jamais les auditeurs, enfin pas les participants, les
jamais.
Invités. Jamais,
non, jamais, jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment le truc de base. Au début, maintenant on le fait spontanément, mais au début on s'est dit, on va pas le faire. On va faire attention à la manière dont on s'exprime avec nos invités pour qu'elles se sentent bien, même si les premiers épisodes, c'était des amis, donc c'était oui. quand même, tu oui. vois.
On aurait pu en plus les voilà. vanner, parce,
qu'on les parce qu'on les connaissait ouais. et tout, mais on n'a pas choisi cette ligne, quoi.
Je comprends. Et toi, ça t'a apporté à titre perso quoi ?
Moi, ça m'a nourri beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de points de vue, d'histoire. Ça m'a, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été entouré beaucoup de femmes et de les avoir beaucoup écoutées. Et ben là, j'ai écouté complètement différemment, puisque c'est des femmes que je ne connais pas, qui venaient dans ma vie pour une heure. Mmh. Elles viennent, bonjour, ça va. Connie leur explique ce qui va se passer. On parle pendant une demi-heure autour d'un sujet, avec des questions qu'on a posées qui vont autour du sujet, sachant que parfois, il y a des fois, ben, au début, on faisait des hors-sujets, mais on évite les hors-sujets, donc on essaye toujours de recentrer sur le sujet. Donc c'était des conversations vraiment, vraiment dirigées. Et moi, ça m'a nourri d'entendre toutes ces histoires, d'entendre tous ces points de vue, de voir tout ce qu'elles nous ont apporté. Ça m'a nourri, ça m'a permis de réfléchir et ça m'a apporté peut-être une espèce de sérénité sur sur la réalité des rapports hommes-femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a autant de questions des deux côtés. Mmh. Il n'y a pas un genre qui est mieux calibré que l'autre. Enfin, calibré, je veux dire, il n'y a pas un genre qui se sent mieux dans ses pompes que l'autre, en fait.
Ok.
C'est ce que j'en retiens. Je ne sais pas si je le formule bien.
Moi, très bien, c'est très clair. Il y a autant de questions que de personnes, quoi.
Et aussi, oui.
Bien sûr, et puis, encore une fois, t'en parlais.
Est-ce que t'es beau, pas beau, ouais, machin, enfin...
Puis les moments de vie, enfin, il y a tellement de... Et ça a changé quelque chose dans vos rapports avec les autres femmes, les autres hommes, vos relations... Mmh.
Oui.
Toi, ah, ça, c'est exemple, est-ce, que, oui. est-ce que ça a ouvert une discussion, toi, au sein
alors,
de
alors, il y a un truc, c'est que le podcast, à partir du moment où tu rencontres des gens qui connaissent ce podcast, d'un seul coup, ils se mettent à parler. Ah, tu connais. C'est pas grave, c'est même très plaisant. Okay. Et je suis très flatté. Et puis, je suis passionné par les récits de vie. C'est absolument naturel. Ce qui est intéressant, c'est dans le couple, comment ça. Nous, on était déjà un couple qui parlait. Et d'ailleurs, on a monté le podcast aussi parce qu'on était comme ça. Enfin,
oui.
On était des gens qui étions déjà dans le dialogue et dans l'écoute, tu vois.
Toi, dans ton couple ?
Oui, dans mon couple. Toi aussi dans le...
Non, moi, je suis beaucoup... moi, je suis une galère en communication, dans la relation. Ouais. C'est très compliqué. Je m'en rends compte... je pensais que j'y l'étais,
ouais.
Mais je me rends compte que non, je communique assez mal. Je suis pas,
encore maintenant, après 6 ans de podcast ouais.
Ah, ouais. Et ouais. J'ai beau savoir que la communication, c'est la clé.
Mais surtout que tu es capable.
Et que, ouais, j'en suis capable, mais après, il y a des trucs où je sais pas, c'est difficile. Donc, je dirais pas que je suis un grand communicant dans le couple. En fait, je peux communiquer un petit peu, mais au bout d'un moment, je vais me refermer comme une huître et tout en ayant conscience de l'importance. Et donc, voilà, après, comme c'est quelque chose dont j'ai conscience, je peux le travailler, je peux m'en rendre compte et je peux me forcer, je peux, tu vois, transformer la difficulté en challenge et le surmonter. Mais pas tout le temps.
Ok, toi, ça a changé quelque chose dans tes relations ?
Alors, moi, je pense que ça... Oui, je pense, dans un sens, ça m'a... je réfléchis parce que, du coup, moi, j'ai eu un parcours, j'ai été en couple pendant un moment, pendant l'enregistrement, après, je me suis séparé. Je crois que quand on a commencé l'enregistrement, j'étais célib, mais je me suis assez rapidement mis en couple, je crois. Mais je pense que ça m'a, en tout cas, oui, fait comprendre que, bah, en fait, qu'il fallait parler... Peut-être chose que je faisais moins avant.
Okay.
Mais encore une fois, je ne sais pas trop si c'est pas aussi, moi, maturation, ça ne se dit pas, non,
maturité.
Ma maturité, enfin, le fait que j'ai mûri, que j'ai. Pendant aussi ces 6 dernières années où il s'est passé plein de trucs dans ma vie, où je pense que voilà, je suis devenu plus adulte que je l'étais avant.
C'est un tout.
Ça a participé au truc. Je ne pense pas que c'est la seule chose. Mais ça m'a montré, évidemment, entre guillemets, ce que j'appellerais les bonnes pratiques et que j'avais pas dans ma toute première relation, typiquement, où je parlais très peu, j'étais hyper inhibé et tout. Et en fait, maintenant, je me dis, mais c'est évident, en fait. Enfin, et c'est vrai que c'est une richesse. En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, en fait, des fois, de cette richesse qu'on a eue. D'avoir des témoignages toutes les semaines de personnes qui s'ouvrent à nous
et la façon,
c'est incroyable en fait, c'est une richesse de fou.
Toutes ouvertes et bon les garçons mais tout c'est toutes ouvertes à vous, c'était incroyable.
Moi il y a un élément aussi qui me qui est notable dans, dans cette expérience, c'est notre âge. Je pense que plus jeune, on n'aurait pas fait la même chose. Et aujourd'hui, on a fait ça à une période charnière de vie où on a pu, on avait déjà des choses à digérer, on avait déjà des choses à questionner. Tu vois, quand, on n'aurait pas pu faire ça à 20, 25 ans. Mmh. On n'avait pas le même truc.
Alors, on l'aurait fait, mais ça aurait été complètement autre chose. Ça aurait été, le truc, comment on dit, station sexe ou je sais pas quoi, là, non?
Radio sexe.
Radio sexe, ça aurait été peut-être plus un truc comme ça, quoi. Un truc de gent qui raconte des blagues, quoi.
Exactement. Moi, et du coup, pour ça, faire un parallèle avec ta question précédente, un peu, où tu demandais si on avait pécho ou des trucs comme ça.
J'ai pas demandé ça, mais si tu veux en parler.
Enfin, tes auditeurs. Non, mais c'est ce que je veux dire.
Votre communauté.
De le faire à l'âge auquel on l'a fait, ça permet de le faire sans avoir cette volonté. Alors qu'on l'aurait fait à 20 ans, on l'aurait fait comme on fait un groupe de musique pour choper.
Oui, oui, c'est vrai aussi, ouais.
Et alors vraiment, ça, c'était tout, absolument pas l'objet. À aucun moment, on a fait ce truc en se disant bah, « ça va nous faciliter les trucs pour choper » ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais ça, c'est parce qu'on l'a fait à un âge qui nous permet de se dire que vraiment, on a vécu des choses, on a envie de comprendre peut-être d'autres choses et on a eu l'intelligence parce qu'on est après on est dans cette curiosité, c'est pour ça aussi qu'on est copains, c'est parce qu'on a cette manière sur certaines choses, cette curiosité, on a ce truc en commun de se dire bah, on va essayer de le faire et ça nous a amené là, ça nous c'est voilà.
Et pour continuer, tu le dis souvent d'habitude, c'est toi qui le dis, mais c'est pas grave, quel genre de mec on aurait été aujourd'hui à notre âge de profiter de la situation, quoi.
Ah ouais.
Enfin, je suis désolé,
c'est pas possible. C'est clair.
Enfin, mais, c'est inconcevable.
Mais quand même, dans les tout premiers épisodes, dans les filles qui étaient nos copines, je dis, on n'a pas pécho, mais on aurait aimé.
Bien sûr.
Il y a des meufs avec qui on aurait
aimé. Moi, j'aime bien l'honnêteté de Dan.
Mais ça
me plaît.
C'est les premières, c'était nos copines.
Dans les toutes premières, tu vois, c'était nos copines. Sur les 5-6 premières, il y a au moins, je sais qu'il y a au moins
des épisodes dont c'est le sujet.
Il y a au moins une ou deux meufs où, voilà, j'aurais. Il y a même des épisodes où c'est.
Ok.
Et toi, Pascal, peut-être aussi, je ne dis rien.
J'adore comment
elles sont. Elles viennent, elles sont en confiance. C'est Pascal qui le dit d'habitude, je suis étonné, je te prends ton texte, mais elles viennent, elles nous connaissent pas, ou alors pire, elles ont l'impression de nous connaître parce qu'elles nous suivent alors qu'elles nous connaissent pas. Elles vont dans un endroit, alors le dernier studio, il est dans un sous-sol, dans un voilà, il est très agréable.
Tu vois, on est dans un espace, oui,
voilà, elles sont en confiance, elles viennent avec trois mecs plus Mitch, quatre mecs plus Pierre, voilà,
et Ben aussi,
et Ben fois. Et wow. Et voilà, tu vois.
Ouais, je comprends.
Mais ça aussi, c'est un truc dont on a eu conscience très tôt. Parce que je me souviens qu'on était, quand on était à l'antenne, quand on faisait encore les podcasts chez Binge, et tu sais, on recevait dans le grand théâtre.
Ouais.
Et ça faisait partie des choses qui nous mettaient bien. C'était de se dire, ici, c'est un grand espace. On n'est pas dans un petit truc confiné. Ouais. Pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, d'arriver là,
c'est un peu chelou.
Ça passe, quoi. Ouais, ouais, tu vois, c'est pas le petit studio.
C'est intéressant comme réflexion.
Ben, bah, c'est une réflexion qu'on
chez Binge, là, il était vraiment ouf.
Il était vraiment ouf. Et moi, je le trouvais sécurisant parce que c'est grand. Tu vois, c'est pas le. Tu te souviens quand on a fait
après,
les épisodes dans la petite salle
chez Binge, toujours dans la cave.
Chez Binge, dans la cave. Là, c'est plus angoissant. La salle, elle était plus petite qu'ici. T'avais une grosse table ronde.
C'était 3 mètres sur 3.
C'était vraiment en bas. C'était hyper étroit. Et
donc
tout.
Là, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu veux, c'est un truc dont on a pris conscience dès le début. Pareil, il y a eu un moment.
On enregistrait chez moi.
On enregistrait chez toi. C'était une vraie question parce que ça voulait dire que concrètement, dans le rendez-vous, on disait aux meufs, viens chez Dan. Tu viens chez Dan, il y a trois mecs, il y a Mitch, tu connais pas, et tu viens.
Ouais,
et tu connais pas le contexte, tu sais pas. Moi, à l'époque, j'habitais avec ma meuf et tout, enfin, mon ex de l'époque, et du coup, tu peux pas savoir, tu te dis peut-être juste, le mec, c'est une énorme garçonnière ou je sais pas quoi,
et
qui arrive dans un guet-apens, enfin, tu sais pas.
C'est pour ça que tu dois être aussi irréprochable avec les invités.
Oui,
parce que
sûr.
Tu veux pas qu'il y ait une invitée qui dise, ah bah, ils m'ont emmené, et puis mon pécho, enfin, il y en a un qui a profité de l'émission pour me pécho, quoi que ce soit. On peut pas se le permettre, c'est pas.
Non, mais je pense en vrai, ça nous a vraiment pas traversé l'esprit.
En plus, ça nous a pas traversé l'esprit.
Surtout pas à ce moment-là.
Tu
étais
chez
dire...
ta meuf.
Non, mais... on aurait pu se dire. Après, je m'appelle, machin.
Tu étais chez ta meuf. J'aime. Merci pour ce moment. C'est la meilleure punchline. Tu étais chez ta meuf. Allez, c'est joli.
Pour
c'est
une
beau.
Fois que c'est
beau.
Moi,
bravo. Bravo.
Attends,
vous
le
êtes.
Le roi de la punchline en sous-marin, quand même. Hein. Tu
vois,
ouais, bon,
ouais. Vous êtes tous les trois nés dans la. Le décennie des années 70 pour la coquetterie de Pascal, je peux dire, jusqu'à début 80, mais Pascal.
Ça,
hein.
Je crois que c'était fin des années 80.
Jeune, c'est pour ça.
Vous êtes donc la génération qui a été aux premières loges du changement des rapports entre hommes et femmes et la montée en puissance et reconnaissance du féminisme et des pouvoirs politiques, entre autres. Mm-hmm. Vous avez été également témoin, il y a quelques années, en pleine fleur de l'âge, je ne te dis pas d'âge, hein, de la déflagration MeToo. Mm-hmm. Quel est votre rapport à cela? Est-ce que ça a impacté d'une façon ou d'une autre votre, alors je veux dire, je vais pas dire virilité, mais en tout cas votre rapport aux femmes. Est-ce que ça, je crois qu'on en avait un peu parlé une fois, donnez-moi, mais voilà, le rapport de séduction aussi. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, votre posture dans l'espace public? Par exemple, tu vois, le côté très safe que tu mets en place dans un enregistrement, je trouve que c'est prévenant. Est-ce que voilà, tout ça, ça a été une somme de réflexion pour vous? Ça a changé quelque chose?
Moi, oui. Ah oui. Moi, clairement, fond, oui. À fond. Totalement.
Concrètement, dans les comportements, par exemple?
Concrètement, dans les comportements. Ouais. Moi, je suis très, je suis plutôt lâche. Je suis pas très bagarreur. Voilà. Mais il y a une semaine, je me suis retrouvé dans une situation où il y avait un mec qui collait un peu trop près une nana qui faisait partie du groupe de gens avec qui j'étais, et j'y suis allé, quoi.
Ok.
Donc je suis allé physiquement. Ouais. Physiquement, je suis allé lui dire non, okay, tu dégages, et ça s'est plutôt mal passé.
Ah
non. Ah oui. Ouais, ouais. Et bon, non, mais en tout, ça a été, quoi. Le mec était vraiment très con, et je me suis rendu compte du fossé qu'il y avait entre lui et moi. C'était basique en plus. Hein. C'était pas, il y avait pas une raison. Enfin, la meuf a juste dit non. Le mec était trop près. Il insistait pour rester près, alors qu'elle avait dit non parce qu'il avait fait lui vomir dessus, tu vois. Et c'était, ouais, c'est pas grand chose. Mais et en plus, moi, j'étais dans une situation où vraiment j'ai cogité longtemps avant d'y
aller.
Non, avant d'aller vraiment plus loin. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où c'est redescendu assez vite puisque cette fille était avec. Elle était avec Pierre. Et
avec un groupe.
Ouais, non, enfin... on était juste trois au fin de soirée. Donc. Enfin, vraiment, j'ai pas de souvenir d'avoir été jusqu'à ce point-là, au bord de la violence, pour trois fois rien, juste parce qu'une meuf, à un moment, a dit « dégage » à un mec, et que le mec, il l'a mal pris, et il a dit « bah non, tu m'as dit de dégager, donc du coup, je vais rester à côté de toi, et je vais me mettre à côté de toi. »
Je vais te faire chier, quoi. Ouais.
Et je vais te faire chier. Et en fait, je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai physiquement été là à dire « mec, dégage ».
Tu penses que ça a été une prise de conscience que tu n'aurais pas eue avant?
Je sais pas comment j'aurais réagi avant. Peut-être qu'avant, je me serais contenté de dire « allez, vas-y, on
s'éloigne ». T'en as déjà vu des gros lourds qui embêtent des potes, des meufs en boîte, etc. Ou t'as pas voulu les voir, parce que ça existe, hein, beaucoup.
Après, là on était, c'était vraiment plus que gros lourds, je trouve.
Bah, ouais, un mec après, qui te colle physiquement, enfin, je m'en rends pas compte ce que tu dis, mais des mecs qui te collent...
Tiens, tu vois, je te donne un exemple. Il y a quelques années, c'était bien avant le Covid... j'ai été témoin d'une situation comme ça où je draguais une meuf vraiment totalement la drague de merde où j'ai arrêté au bout de deux phrases parce que j'étais mauvais.
Et
j'ai assisté de plus ou moins loin au mec avec qui j'étais. Et lui, il draguait une meuf et il était. J'entendais. Enfin, tu vois, c'est. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il s'est passé à un moment donné où un copain de cette fille est venu enlacer cette meuf. En mode, vas-y, dégage, elle est avec moi.
Okay.
Et je me dis, donc ce mec, il a été au point où il n'a pas compris les noms précédents de cette meuf, au point qu'il y a un copain à elle qui a dû venir faire ça. Et ben ça, je pense que je ne l'aurais même pas vu avant. Ouais. Et là, aujourd'hui, je le vois. Et je me dis, après, moi, je n'ai pas une nature, je t'ai dit, je veux qu'on me désire. Donc, je ne vais pas aller, moi, si tu me tais, je t'inquiète, hein, je vais voir ta copine. Hein, tu vois,
okay.
Donc voilà, je suis pas du tout le genre insistant.
Oui.
Ah non, je n'insiste pas. Mais
donc c'est ça qui a changé pour toi dans l'espace public, c'est que tu te rends davantage compte.
Je pense que je me rends davantage compte. Après, c'est hyper difficile de vraiment le faire parce que ça veut dire que t'es tout le temps à l'affût et c'est pas le cas. Mm-hmm. Mais ouais, je me rends compte que j'ai pas occupé tout l'espace et qu'il y a des gens qui dans le même espace peuvent se sentir pas en sécurité. Ça m'arrive parfois, je marche et moi des fois je marche vite, j'ai envie de doubler quelqu'un et la meuf qui te voit pas débarquer parce qu'elle a ses AirPods machin, elle débarque, elle a un mouvement de sursaut et tu peux rien faire en fait. Tu peux rien faire parce que
tu peux dire désolé.
Non, même pas. Ah ouais, même pas, parce qu'elle a son AirPod et tout. Éventuellement, je peux dire désolé, mais en vrai, je sais que même si je dis désolé, ça va pas, machin. Et en vrai, qu'est-ce qu'un psychopathe, il va le dire le désolé aussi avant de t'agresser. Tu vois, ça veut rien dire.
Non, mais cette sensation-là, elle est terrible, hein, dans des grandes villes comme ça où tu sens les gens qui sont derrière toi et tout.
Et moi, en fait, au-delà du désolé, je pense que vraiment ma meilleure posture, c'est de dire, limite, je suis désolé de t'avoir dérangé. Tu sais quoi, je vais tracer plus vite. Je vais même pas me retourner. Je vais même pas te calculer parce que de toute façon, t'es pas dans mon schéma. T'es juste devant moi au moment où je veux te doubler. Et voilà. Mais c'est une sensation que je peux percevoir. Ou en tout cas, j'y fais plus attention. Et c'est un truc que je vois en ce moment. Je prends le RER et je prends le métro assez tard. Et tu vois, j'y fais attention. Voilà, je vais faire gaffe. Je vais pas. Bon, déjà, je regarde pas trop les gens. de manière générale, mais je vais pas les regarder, je vais pas me coller aux gens, je vais pas, enfin tu vois, je vais pas. Mais après c'est homme comme femme, je vais pas me coller aux gens.
Et dans la séduction, est-ce que ça a changé ce rapport, le après MeToo, etc. Ça
non, pas pour moi.
Pas pour toi.
Et alors je sais qu'il y a, j'entends parfois oui, on peut plus draguer et tout, bullshit quoi. Moi je, ça,
ah oui.
Moi ça a rien changé, j'y vais, j'ai envie d'aller voir une meuf, j'y vais quoi.
Ok.
Parce que si elle me dit non, j'arrêterai.
Ok.
Voilà. Donc pour moi ça a pas, je me sens pas. Enfin, tu vois, mais je draguais pas comme un gros lourd avant MeToo, en fait. Donc, j'ai pas besoin de
draguer.
J'ai pas besoin de changer, en fait.
Okay. Ouais.
J'ai, voilà, je vais juste voir les gens de la même manière que j'allais les voir avant. Et puis voilà, je respecte par défaut.
Ok.
Tu vois, quand tu agresses, c'est que tu manques de respect. Moi, je respecte par défaut.
Mais ça moi, j'ai des invités hein, qui m'ont dit, qui sont dans vos générations, plus jeunes. Plus âgés qui m'ont dit que ça leur a vraiment, ça les a vraiment perturbés cette période-là. Le rapport aux femmes est devenu très compliqué. Ils savent plus comment faire. Enfin après, je sais pas, j'ai pas envie de défendre.
Mais comment faire quoi?
Le rapport en fait avec les femmes. Enfin en l'occurrence là, on est dans des rapports hétéros,
de
mais ouais,
les
séductions.
En fait, c'est parce que moi j'ai pas de rapport
même
avec
rapport,
les femmes.
Même certains m'ont dit sur leur rapport pro-hiérarchique, etc. Il y a un truc un peu, tu vois, qui s'est mis un peu de façon...
C'est pas un rapport avec les femmes, c'est un rapport avec les êtres humains. Moi, je vois pas une femme comme une femme. Je vois une femme comme un être humain, quoi.
D'accord.
Donc après, dans certains cas, effectivement, il y a une fragilité, il y a des trucs auxquels tu dois faire attention. Enfin, par fragilité, ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu peux te retrouver dans une situation où une femme va avoir peur de toi sans raison, là où un homme peut-être n'aura pas cette peur. Mais moi, de base, je me dis pas, ah, attention, c'est une meuf, je parle aux gens comme je parle aux gens, en fait.
D'accord.
Donc j'ai pas de...
Tu les insultes, quoi.
Ouais, voilà.
Et toi, Connie, ça a changé quelque chose, c'est ça?
Alors, dans la sphère publique, pardon, c'est très... C'est très subtil. Moi, j'ai toujours été, très attentif à ça. C'est marrant parce que j'ai une histoire douloureuse qui m'est revenue aussi. Juste en deux mots, j'allais prendre le RER, j'allais à la fac à l'époque, et sur le chemin, je suis dans ma petite banlieue, et il y a un mec qui est en train de taper sa meuf, et elle est par terre en train de la taper quoi. Et il y avait personne dans la rue et tout. Je suis con, moi. Faut vraiment avoir 20 ans pour de vrai. Et je m'approche et je dis au mec, écoute, il y a peut-être d'autres moyens de lui parler. Et le mec, il sort un pistolet à grenaille, il me le met sur le front.
Oh.
Ah ouais.
Et en fait, c'est genre, tu vois, moi j'en ai.
C'est traumatisant.
C'est assez.
Oui.
J'allais impartiel, j'ai pas réussi à écrire une ligne. J'écrivais comme ça. Là, c'était horrible.
Ah ouais, c'était traumatisant.
Ouais, c'est très dur. Et parce que voilà, je me suis retourné en l'insultant, mais je me suis dit quand je me retournais, enfin voilà, ça va tellement vite en plus. Et en fait, j'ai toujours été, enfin moi, le souci, mais je reviens pas à ce que je disais tout à l'heure, c'est des êtres humains avant tout, tu vois, et que ce soit de l'injustice ou quoi, le truc est le même. Mais merci. J'ai découvert des trucs quand même. J'ai découvert, alors je le savais, il faut pas être naïf, que d'une manière générale, les hommes et les femmes n'avaient pas le même statut, c'est vrai, on est différents de toute manière, et en particulier sur le côté de la force physique qui a donc un impact sur les agressions et tout. J'ai découvert par exemple que les femmes avaient peur dans la rue.
Ouais.
Moi, tu vois des expériences comme ça, moi j'ai souvent flippé. Hein, je viens d'une banlieue sympa. Hein.
Et moi aussi, hein, j'ai déjà eu peur dans la rue. Bien
ouais, moi j'ai eu très peur. Bah, là j'ai eu très peur. Il y a des fois où tu sais que tu passes dans un coin qui n'est pas terrible, tu vois tout. Ok, mais c'est pas la même peur. Voilà,
ouais,
c'est ça.
C'est pas pareil.
J'ai appris que c'était en continu. Tu vois, je m'en rendais pas compte. Franchement, c'est un truc que j'ai appris. Ce matin, là, il y avait les grèves dans le RER et on était serrés les uns contre les autres. Il y avait une nana de 20 ans à côté de moi qui sentait merveilleusement bon. Je voyais qu'elle était flippée, quoi.
Ouais.
Et je suis très empathique, tu vois. Et je sentais qu'elle avait peur que je lui mette une main au cul ou un truc comme ça.
Bien sûr.
C'est évident, quoi. Je sais pas si je l'aurais vu avant.
Mais c'est clair,
tu vois.
Avant, tu l'aurais fait.
Et je te l'ai donné, celle-là, elle est pour toi.
Ouais,
ça s'appelle.
Ouais,
c'est une passe décisive, ça. Hein.
Perche incroyable. Hein. Non, mais je comprends.
C'est comme ça pendant le podcast, souvent. On fait.
Moi, si
on
est l'équipe de foot. Qu'est-ce que j'ai écouté? Je sais, vous blaguez.
Mais c'est vrai qu'attends. T'as fini ou pas? Non, vas-y.
Vas-y, finis. Vas-y.
Non, vas-y.
Rebondis.
Je vais changer de sujet.
Alors, moi, j'ai employé des gens quand j'étais indépendant et tout. J'ai jamais payé un homme ou une femme de pas de la même manière. C'était la même chose, tu vois. Et du coup,
tu quand payes pas quoi, personne.
Je les ai trop bien payés, j'ai coulé ma boîte comme un gros naze parce que je payais trop bien les gens. Bon, bref, peu importe. MeToo, parce que tu parlais des gens. Parce que le MeToo, en fait, qu'est-ce que moi j'ai vu et j'ai vécu, c'est que ça voulait dire quand t'es dans la sphère publique, au travail et tout, le comportement que tu avais avec une femme de façon naturelle, questionne-le. Mmh. La petite blague et tout. Est-ce que tu fais une petite blague quand elle arrive le matin sur... Moi, j'en ai entendu des monstrueuses sur des trucs, des trucs inimaginables. Hein. Et donc, tu te questionnes. Et pour rejoindre tes auditeurs qui se questionnent là-dessus, en fait, ce que j'ai trouvé terrible avec le MeToo pour moi, c'est que je me suis remis en question alors qu'en fait, j'avais pas franchement à me remettre en question. J'en ai beaucoup discuté avec ma femme, avec mes copines et tout. Et en fait, ça a été dur. Ça a été, j'allais dire, douloureux et dur. Parce qu'en fait, la société, les médias m'ont dit « Eh mais mon gars, t'es un violeur en puissance.
Ouais, » t'ont obligé à te... Ouais, bien sûr.
Et je me suis dit « Putain, je suis un enculé de violeur. » Et j'ai réfléchi. Je me suis dit « Ah ouais, tout. Ah ouais, hier, j'ai marché trop près de la dame dans la rue. Là, est-ce que je suis pas un... » Tu vois, tu deviens débile. La médiatisation, elle est ouais. Horrible.
Moi, j'ai des potes très déconstruits, très cool, qui ont dû demander à leur meuf à un moment donné « Est-ce que t'as l'impression que un jour, je t'ai violée conjugalement ?»
Exactement. Bah, moi, j'ai posé cette question-là.
Ah, tu l'as posée à ta femme.
Bah ouais. Ok. Tu vois, elle m'a dit non. Et sincèrement, tu vois, elle n'a pas la raison de mentir.
Ah, je vais faire une blague. Non, c'est bon. Non,
ça, c'est une private joke. C'est une private joke. Mais tu vois, et en fait, okay. Ce qui a été dur avec ce MeToo, c'est qu'en fait, ça s'adresse à des violeurs, à des minorité. Enculés, voilà, une minorité d'enculés.
Mais qui pour le coup pas tant que ça une minorité, mais bon, qui, enfin, mais t'as raison.
Peut-être que je me plante, hein, mais en vrai, t'as raison. Si ça se trouve, c'est pas une minorité, c'est une majorité. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'adressait pas à moi. Tu vois? Et ça a été dur.
Ouais. Mais ce que je vais dire n'a rien à voir avec ce que toi, tu as pu dire. Donc, je ne remets pas du tout ton témoignage en question. Mais je pense que les gens qui sont des enculés ne le savent pas.
Ah oui.
Ils sont pas là en train de se dire, putain, je suis un enculé.
T'as tout à fait raison. C'est la différence entre le con et le connard.
Ouais, ouais.
Bah, j'en parlais tout à l'heure.
C'est vrai. Ouais. Ouais.
Tu vois?
Ok. Et toi, Dan, du coup, ton côté, qu'est-ce que ça a changé?
Moi, je dirais, ouais, je pense que je suis un peu comme Connie, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, j'ai été hyper timide tout le temps, j'allais jamais voir les meufs. Quand j'étais en couple, j'étais aussi, plutôt inhibé, machin, pas forcément à prendre les devants. Donc, je pense pas que j'étais. Enfin, je me suis pareil posé la question, est-ce que j'ai déjà forcé quelqu'un? Donc je pense que ça, enfin moi j'étais pas trop mis en cause, mais c'était bien. Je pense que c'est une bonne chose de se remettre en question et de se dire bon bah la prochaine fois que je fais une rencontre, il faut que je fasse gaffe à ça ou ça.
Mais dans l'espace public par exemple.
C'est vrai que du coup il y a aussi peut-être, alors c'est un peu le truc con, mais truc un tout petit peu contre-productif, mais en même temps évidemment c'est une très bonne chose que ça soit là et tout et que ça ait eu lieu, que ça ait lieu en ce moment. Mais le truc un poil contre-productif, je dirais, c'est en fait que maintenant je fais du coup maintenant je vais moins vers les gens quoi, enfin je vais moins vers les meufs et je vais et en fait quand je rencontre quelqu'un je fais pas du tout confiance tout de suite. Et en fait moi j'ai eu une période de ma vie où vraiment la période du Père Noël et quelques années qui ont suivi où je ramenais vraiment des meufs que je connaissais pas du tout chez moi. Je pouvais vraiment les avoir rencontrées 5 minutes avant. Ou même des fois, j'ai eu... je me rappelle, une fois, j'ai eu une relation sexuelle dans un bar. Et en fait, ça, c'est typiquement des choses que je ferais plus du tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment trop peur que...
Mais t'as plus la santé, déjà.
déjà, je suis beaucoup trop vieux.
Là, c'est ça.
Et en fait, j'ai peur que la personne... me dise après, mais en fait, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'on a fait, machin, et peut-être qu'elle ne l'était pas, et que moi, je pensais que, en fait...
Oui, donc ça calibre quand même maintenant.
Tu vois, en fait,
maintenant...
c'est vraiment maintenant, je me dis, ok, en fait, si je rencontre quelqu'un, il faut vraiment que je me dise, ok, elle me kiffe bien. Et là, je te parle vraiment de passer l'étape de la relation sexuelle, quoi.
Ok.
Et après, pour la séduction, moi, en vrai, j'ai jamais été un gros dragueur. Alors, ça m'est arrivé, pour le coup, de draguer... non, mais quand je dis dragueur, dans la rue, en fait, pardon.
Pascal
Rie. Parce que tu ramenais des meufs.
Oui, mais... c'est vrai.
Non, mais dans les bars. Le dragueur et le séducteur.
Oui, allez, on va lui donner
le bénéfice du doute. Drague dans la rue, j'ai fait un tout petit peu, j'ai essayé à l'époque, je m'en rappelle, on avait... D'ailleurs, c'était avec toi, Pascal, on avait essayé un peu de sortir dans la rue et de parler à des gens. Coup, maintenant, je pense que... Mais en même temps, c'est marrant parce que c'est typiquement des questions qu'on a posées à nos auditeurs et auditrices, surtout des gentilshommes, qui nous ont dit qu'elle poussait tous les mecs autour d'elle à le faire parce qu'elle en avait marre des apps et qu'elle voulait justement que quelqu'un les aborde. Ouais. Mais après, évidemment, il y a des codes, il faut être hyper... Enfin, ce qui est normal.
Ouais, ouais. Non,
mais après, comme dit Connie, il y a aussi... Ou c'était Pascal qui disait ça. Enfin, je pense que nous, on n'a pas été des connards avant.
Ouais.
Donc, en fait, mais en même temps, le connard ne sait pas que c'est un connard. Donc,
ouais, c'est ça. Ouais, c'est
donc,
ça.
En fait, il faut...
Il faut rebondir là-dessus.
Il faut quand même faire gaffe.
Moi, j'ai changé là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, je fais quand même plus attention parce que dans le doute... Où j'ai été un connard sans faire exprès.
Sans faire exprès, exactement.
Tu vois ? Et ben maintenant, je fais attention. Et c'est vrai, je rejoins Dan, les relations humaines avec des inconnus sont beaucoup plus cordiales maintenant, beaucoup plus, beaucoup plus de distance, etc.
Ouais. Mais par contre, pour finir, je me suis rendu compte quand même que dans ma vie, j'ai eu 2-3 passages où je pense que j'ai...
T'étais border.
J'ai poussé, tu vois, en fait, entre guillemets, la personne n'était pas forcément... Alors c'est compliqué le consentement parce qu'il y a tout ce truc où je veux dire est-ce qu'il faut le verbaliser, est-ce qu'il faut pas le verbaliser quand c'est quelqu'un que tu connais avec qui peut-être t'as déjà eu des rapports machin et en tout cas en me remettant en question je me suis dit attends là peut-être que j'aurais été à la limite j'aurais dû demander machin et rien que pour ça en fait c'est bien parce que si tout le monde commence à mouliner un peu, en fait, c'est bien parce que en fait, on fera moins de conneries.
Je comprends.
En tout cas, on sera plus à l'écoute, quoi.
Ok.
C'est vraiment ça le but, quoi.
Ça tue pas un truc. Vas-y, Pascal.
Mais ça tue un truc de
bah non, d'être consentement.
Mais justement, c'est le truc, c'est que je sais pas s'il faut le demander, mais en tout cas, déjà de se poser la question, la première étape.
L'étape, je pense que c'est de demander quelle est la position de l'autre sur le consentement.
Ah oui,
qui vont te le dire.
Il faut que tu me demandes.
Dis-le-moi une fois et c'est bon. Et parce qu'il y a des personnes qui vont dire, mais tu vas pas me demander à chaque fois de faire un truc. Quoi.
Exactement.
Bien sûr, mais
il y a des gens qui vont te dire non, je veux.
Voilà, moi on m'a déjà dit c'est très important de demander.
Et c'est important. Et c'est là où on arrive dans la communication, effectivement, de savoir sur à quel jeu on joue.
Donc c'est tu mets ton curseur, tu préviens.
Ouais. Où tu dis où est-ce qu'on est et.
C'est vrai que dans la séduction, c'est pas évident. Hein.
Ah oui,
parce que quand t'es en pleine séduction, à un moment, ça veut dire que tu redescends de ta séduction dis, tiens, on est en train de se séduire et est-ce que je peux faire ça? Je te demande.
Il faut avoir le courage de se dire je passe le pas. Ouais. Parce que souvent, dans la séduction, il y a un truc un peu magique, un peu naturel qui doit se faire et tout. Si à ce moment-là, tu te dis, au moment où tu te penches, tu vois, tu te dis, allez, je vais l'embrasser ou je sais pas quoi, tu dis, est-ce que tu serais consentante pour que je te roule une pelle? C'est mort.
Tu sais quoi? Je me demande comment je fais et je me demande si je te demande pas.
Tu demandes,
mais je pense, moi, je suis d'un avis Pascal.
Remarque, moi, je me souviens l'avoir fait.
Ça m'est arrivé.
Je me souviens aussi de ne pas l'avoir fait.
Ouais, parce que
je me souviens des fois où c'est tellement fluide, ou à un moment, tu y vas, mais au final.
Est-ce que vous attendez le consentement dans l'autre sens, non. Que la nana vous demande et...
Alors, non, pas du tout, moi.
blague!
Mais par contre,
si tu es,
c'est vrai que moi, il y a des fois où je pense que j'aurais dû demander. En fait, aujourd'hui, je t'avoue, il y a des trucs où des fois,
tu demanderais.
Non, mais surtout aujourd'hui, je me dis putain, en fait, j'étais un connard. C'était pas grave.
De période, il a raison.
Je pense qu'on se juge durement aussi parce qu'on a, aussi toute une histoire et toute une évolution.
Oui, mais en fait, je me dis il faut que j'apprenne de ça et en espérant que.
T'as pas demandé, mais si elle avait dit non, t'y serais pas allé. C'est ça aussi, quand tu regardes rétrospectivement.
Oui.
Si la nana t'avait repoussé, tu ne serais pas allé.
Évidemment, évidemment. Après, il y a aussi ce truc-là, c'est que la personne peut te repousser.
En fait, c'est un truc que je disais, j'avais un truc où je montais sur scène, où je lui racontais cette histoire, où j'étais au cinéma, c'était il y a très longtemps, et j'étais au cinéma, et je me penche vers la nana, je pensais que c'était acquis, tu vois, et je me penche vers elle pour l'embrasser, donc je n'ai rien demandé.
Elle te pousse.
Et elle me dit juste non. Et fin.
Ouais, c'est ça.
Oui, elle te dit non, c'est vrai.
Moi, j'en ai juste centaines, mais comme ça.
Tu vois, et ça s'arrête là. Non, mais c'est
une histoire. C'est
vrai que ce qui est chiant, si la personne ne dit pas non.
C'est ça.
En fait, après, t'es un peu comme un con, parce que mais en même temps, tu peux pas non plus lui reprocher, parce qu'en fait, il fallait pas y aller, quoi.
Exactement. Et puis c'est ça
la connerie.
Je suis tombé sur une qui a dit non, mais parce qu'elle avait suffisamment ce qu'il fallait pour dire non. Il y a des filles qui, dans la manière dont
la passivité,
vont pas oser dire non, vont pas, parce que dire non, ça implique tout un tas de choses. Après, on en a conscience. Et alors, moi, ce que je dirais pour combattre ça, c'est de faire durer la séduction le plus longtemps possible. tu vois, c'est-à-dire de vraiment faire ouais, durer, ouais. C'est-à-dire d'arriver au moment où c'est plus toi qui a embrassé
oui,
la meuf,
c'est la personne,
et la meuf
qui
est, elle
c'est
tellement
la meuf,
chien,
on
elle se dit bon allez vas-y,
ah, bravo,
et comme
malin,
ça c'est elle qui le fait.
Très très malin Pascal.
Il a de l'expérience,
ouais,
hein.
Ouais, il est fort. Hein. Oui. Ok, voilà. Dernière question, et après on fera le petit questionnaire de Proust. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil relatif aux relations amoureuses et intimes à votre vous de 25 ans? Donc hier pour toi, hein, Pascal.
Bah, Dan, c'est demain.
Demain. Donc
bah,
à mon,
ouais,
à mon
coup,
futur,
pas.
Mon futur Dan.
Bien sûr.
Donne-lui un bon conseil.
Non, mais au jeune Connie, au jeune Pascal, au jeune Dan, vous lui diriez quoi?
Moi, je dirais, aie confiance en toi. Dis-toi que t'es a priori, t'es pas trop chum. Tu peux, ça peut, sur un malentendu, ça peut marcher.
Ok.
Non, ouais. Non, mais je dirais, ouais, je dirais aie confiance. Et puis évidemment, soit à l'écoute, soit dans le respect. Fais pas le con. Bon, c'est un peu bateau, peut-être.
Ouais.
Moi, rien.
Moi, celui de 25 ans, moi aussi, je suis d'accord. Celui de 25 ans, ça va. Celui de 17, je dis pas.
Ah oui.
Mais celui de 25, moi, je me suis.
Toi, t'étais déjà maqué, toi.
26 ans. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu la rencontres, tu sais pas que c'est elle, quoi.
T'as pas su que c'était elle?
Ah non.
Ok.
Non, pas du tout.
Tu croyais que c'était sa mère?
Ah,
c'est quoi, tu
Ouais, là, c'était.
Okay. Moi, j'ai une question pour toi, puisque tu nous poses des questions sur nos épisodes. Mais toi, tu as découvert les épisodes il n'y a pas très longtemps et tu nous as dit au début que tu avais tout bingé.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que ça te fait d'écouter comme ça ces 6 ans de podcast et de voir notre évolution? Parce que tu vois, là, tu finalement, tu nous connais aujourd'hui, mais tu nous connais du début puisque tu l'as écouté il n'y a pas si longtemps au début. Et il y a une vraie évolution dans notre démarche. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as compris à travers cette
Alors écoute, moi j'avais écouté au début parce qu'on s'était lancé à peu près pareil et puis après le temps, hein, tout simplement, hein, vous connaissez ça par cœur. Moi ce que j'ai bien aimé c'est l'évolution des thèmes surtout et la façon dont vous avez aussi amené vos invités à aller sur des questions qu'on pose pas souvent aux femmes. Moi j'ai trouvé ça assez pertinent. Notamment sur la réponse de meuf, réponse de mec, je trouve ça cool de façon assez brute de poser une question et d'avoir les réponses des uns et des autres. Ce que j'ai aimé, alors ce que tu veux savoir, c'est l'évolution sur le podcast en lui-même ou de vous,
de toi, ce que ça t'a apporté en fait de voir. Tu vois ce que je veux dire, on est dans une démarche où t'as écouté des mecs qui se questionnent.
Ouais.
Je crois que ça court pas les rues.
Non.
Qui se questionnent et qui en font un podcast. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de voir là où nous, nos questions, on avait ce point de départ et ce point d'arrivée qui est notre dernier épisode, est-ce que tu es capable d'identifier un chemin et de te dire bah ouais, il y a quand même une évolution,
il y a
de l'espoir,
d'espoir, ouais, c'est beau. Il y a de l'évolution évidemment. Je pensais pas effectivement que les hommes se posaient autant de questions sur le relationnel. C'est vrai que moi j'écoute pas tellement de femmes parce que c'est surtout des hommes que j'interviewe. Donc je vais être très honnête avec vous, j'ai eu beaucoup d'empathie et parfois même de peine pour certaines femmes. Vraiment, il y en a certaines qui m'ont bouleversée dans leur chemin personnel, dans leur douleur, et surtout dans leur crainte de l'homme. Pas dans la peur de l'homme, mais dans le manque d'espoir, justement, dans les relations amoureuses. Et ça, j'ai trouvé ça très cool de votre part, au fur et à mesure, de les rassurer, de leur redonner un peu ce truc de « il existe des mecs bien ». Ok. Après, sur les 6 ans, c'est que j'en ai écouté tellement. C'est ça. C'est votre évolution sur vous, vos questionnements que j'ai trouvé de plus en plus pas complexe, mais en tout cas il y avait des sous-textes. Et ça, j'ai trouvé ça. Au début, c'est un peu.
Au début, c'est
gratuit,
un peu frontal, quoi. C'est un peu
gratuit,
la séduction,
c'est
quoi, machin.
C'est
okay,
ça.
Ouais, ouais.
Et après, j'ai trouvé que voilà, on a tiré vraiment des sujets intéressants.
Ouais.
Ça m'a beaucoup plu.
Ok. Bah c'est parce qu'on a, qu'on a vachement évolué aussi.
Ouais.
À un moment donné, les questions du début, elles ont été répondues. Donc nous, ça nous a ouvert vers d'autres.
Elles ont vite été répondues.
D'autres.
Ça y est, c'est maintenant tu l'as dans ton langage. T'es coincé, quoi.
Non, mais ouais. C'était très intéressant.
Merci en tout cas d'avoir écouté.
Petit questionnaire de Proust, rapide, un mot. Je sais qu'on va y arriver. Oh, un
vas-y,
mot.
Vas-y,
okay
vas-y.
Si vous étiez un animal.
La pizza, c'est pas un animal.
Alors.
Je sais
presque.
Pas.
Un animal.
Un tigre.
Ok.
Ouais, un lion.
Ok.
Un porc.
C'est cool ça.
Parce que c'est un animal d'une intelligence extrême.
C'est vrai.
C'est un animal qui est omnivore, c'est un animal qui est propre.
Et très doux.
Ouais. Et très doux.
Okay.
Et aussi, c'est un animal
très
extraordinaire.
Utile. Bon, bah, un porc, ok.
Très bien.
Un péché.
L'envie.
La gourmandise.
La luxure.
Franchement, j'aurais pu le.
Là, on a pas
j'ai pris la voix en plus.
Une odeur.
Moi, je sais.
Vas-y.
Le shampoing dans les cheveux des filles quand j'étais au collège. On en parlait tout à l'heure.
Bon, moi, ça va être très égomaniaque, mais c'est mon odeur à moi. Ouais, c'est très égomaniaque, je sais.
Pardon. Moi, une odeur de bouffe, quoi. C'est...
Ah oui, l'odeur de pizza.
Ouais, pareil.
Ok. une partie du corps.
La main.
Ouais, la main.
T'as plus le choix, là. T'as plus le choix. Non, il reste plus qu'une seule partie. On a dit la main, il en reste plus qu'une.
Bah, le sexe.
Voilà.
Merci.
Voilà. Donner son consentement.
Quelque chose à manger.
Pizza ou chorizo.
Pizza, chorizo. Ouais.
Ah bah, ramen, on était dans le quartier.
Hamburger veggie.
Une série.
Ah putain.
Une série.
Je peux en dire deux ou juste une?
Allez, dis-en deux.
Allez, Bref ou Serge le Mytho?
Moi, Breaking Bad.
Ah, Breaking Bad. C'est un qui vient. C'est un chef de...
Les Sopranos.
Toutes elles sont trop bien. Validées. Ouais. Un prénom de femme?
Moi, c'est celui de ma femme.
Donc, on ne le dira pas, mais celui de ta femme.
Moi, c'est celui de sa femme.
Moi, merde, j'aurais dû dire celui de son ex.
Ah, pas mal.
Non, sinon, je dirais un prénom espagnol.
Ok.
Mais je sais pas lequel.
Ok.
Mais n'importe lequel, d'ailleurs.
C'est vrai.
Si j'étais un prénom femme, c'est ça la question?
Ouais, un prénom femme. Ouais.
Ouais, un prénom femme.
Prénom, prénom femme qui devient
Iris.
Un défaut?
Un défaut... Le perfectionnisme.
L'entretien supportable.
C'est pas l'entretien d'embauche, putain.
T'as vu ça, c'est...
Une seconde.
Ça, c'est le défaut
non,
parfait.
Non, c'est pas possible, le perfectionnisme.
Non, je dirais le...
Et personne ne l'est vraiment.
Oui, sûrement. Non, non, mais...
Enfin, parce que
je dis ça sur le ton de la blague, mais... comment on appelle ça déjà Non, tu sais, le fait de reporter toujours au lendemain.
Procrastination.
La procrastination.
Ah oui,
voilà.
C'est ça. La ponctualité, tu aurais pu dire.
Oui, la ponctualité.
Bam, bam, bam.
C'est quoi la question, pardon? Un défaut.
Ouais.
L'égoïsme.
Ouais.
Ouais. La connerie.
La connerie?
Ah putain.
Mais t'es pas
putain,
content.
Alors, je suis pas d'accord parce que je trouve pas que ce soit un défaut.
C'est pas un défaut la connerie,
je
non?
Je trouve que la connerie c'est cool. Quoi.
Bah ça dépend.
Quand
là,
la connerie.
Ouais.
Ah non, alors la connerie qui te nuit.
Ah d'accord,
ah,
ok.
Oui.
Bien sûr.
Oui.
Pas la connerie ou enfin la con quoi. Tu
ouais,
vois.
Ou la okay. mienne. Enfin, ou la. Sa pro... Non, moi c'est ma propre connerie.
Et
oui,
une qualité?
La ponctualité.
Il est fort. Hein.
La gentillesse.
Ah. Putain, une qualité.
Non, bon, c'est pas la
non en vrai, en vrai, ouais, ça fait hyper con, mais la bienveillance. Mais en fait, c'est ce que j'essaye.
Bien sûr,
mais
j'ai pas dit que vous êtes
que
forcément...
J'y suis pas, mais j'essaye.
Ouais, si, ok.
T'essayes c'est... quoi, d'être ponctuel ou d'être bienveillant?
Les deux. Alors, ponctuel, c'est pas gagné.
Ouais, moi, c'est l'honnêteté.
Honnêteté, on s'en fout, non?
Non, c'est la même.
C'est la même, on s'en fout.
Il a raison, hein. C'est la pire des conneries de l'honnêteté.
C'est
le pire. En fait, c'est un énorme défaut d'être honnête.
Mais moi, il y a une personne de mon entourage qui est très honnête, mais qui, en fait, qui passe son temps à défoncer tout le monde. Parce qu'en fait, quand t'es honnête, t'es hyper dur.
Ouais.
Et du coup, je pense non, moi au contraire qu'il faut pas être honnête.
Tu peux apprendre.
Je pense qu'il faut, il faut pas. Ça veut pas dire.
On en reparlera, mais
on en reparlera.
Bah, oui et non. Moi, j'aime bien l'honnêteté de.
Bah oui. Ouais.
Parce que c'est vachement bien pour les autres. L'honnêteté,
c'est bienveillante.
C'est toi.
Comme il faut une honnêteté. Comment t'amènes ça? Il y a des techniques. Un endroit. Et la dernière, c'est un endroit.
Bienveillante.
Une honnêteté bienveillante. Et un endroit.
Mon
studio ici avec toi, Anne-Laure.
C'est beau. Un plumard.
Mon plumard.
Moi, ce serait cette plage sur l'île de Comac. Non, sur l'île de Cocoude, pardon.
Ok.
Qui est encore un peu plus loin après celle de Comac.
J'ai pas la ref.
Dans le sud de la Thaïlande, sud-est, je sais pas du côté Phuket, du côté Bangkok et tout ça. C'est une plage magnifique où il ne se passe absolument rien. Il y a juste personne sur la plage, personne dans l'eau. Il fait beau, il fait chaud. Tu peux manger des pâtes thaï, tu peux te mettre dans un hamac avec juste l'eau de la mer qui vient à 29 degrés te frotter les fesses. Et,
okay. Wow.
Ça donne envie là, en plus.
C'est pas mal. C'est ce serait ce lieu.
On est bien.
Top. Et ben, j'aimerais que vous que vous concluiez ce moment parce qu'on a passé un chouette moment. Moi, je suis assez émue pour vous. Hein, je te l'ai dit, Pascal, par notre vocal, que ce soit terminé parce que effectivement, j'ai passé tellement de temps avec vous à l'audio que je trouve que c'est une très belle aventure. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure cet entretien qu'on a passé tous les quatre?
Conclure.
Le mot de la fin. Moi,
on va le laisser à Pascal. Le mot de la fin, c'est lui qui l'a toujours fait. Il le fait très bien.
Non, mais il y a un truc que je.
C'est le meilleur d'entre nous.
Déjà, le truc qui est bizarre, c'est que c'est fini pour les auditeurs, mais c'est pas fini pour nous.
Bien sûr.
Mais c'est pas fini pour les auditeurs.
Non, mais je veux dire, pour les nouveaux.
Pour les
nouveaux auditeurs, ceux qui découvrent, ils ont 250 épisodes à découvrir. C'est génial. Ils ont le temps. Mais pour les autres, ceux qui nous connaissent, qui nous ont suivis depuis le début, ils peuvent soit réécouter.
Bien sûr.
Mais voilà, mais nous, on continue de se voir. Donc au final, moi, j'ai pas tant d'émotions que ça sur la fin. parce que je sais que bah on s'appelle, on se voit, on a mangé un truc hier, on va se voir dans la semaine, on continue de se voir, on continue d'avoir des idées, de continuer à échanger, et ça se trouve on va se refaire des idées, des projets, on sait pas. Et moi, il y a un truc, c'est ce que j'avais mis dans le mot de la fin que j'avais mis sur,
ouais, qui est super sur, Insta.
Sur Instagram, c'est que c'est ce qui est vraiment, 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 vraiment génial dans cette aventure, c'est de voir les gens qui sont venus avec nous.
Ouais.
C'est les gens qui nous ont suivis, les gens qui ont compris notre démarche, hommes et femmes, et qui se sont appropriés ce qu'on a fait, qui l'ont partagé autour d'eux. Et moi, c'est le truc qui me touche le plus, en fait. C'est de, parce que bah, quand tu crées quelque chose, tu le crées et c'est chouette, mais de voir qu'il y a des gens qui y adhèrent et qui y adhèrent très fort. Et c'est un des rares projets où moi, j'ai très, très, très peu communiqué auprès de mon entourage.
Ouais.
Très peu, vraiment.
C'était, pareil pour moi, pareil, pour coup, pas du tout.
Très peu. Au lancement, ouais. Ouais, j'ai dû faire un truc.
Il y a même des potes qui ne savent même pas que ouais, j'ai pareil. Participé au gentilhomme.
Personne
ne
ah.
Et, ouais. Et tu vois, et
qui l'ont découvert après, genre, en mode, mais tiens, c'est toi et tout, c'est chelou. Mm.
Et c'est dingue de voir que tous ces gens qu'on a fédérés, on ne les connaît pas.
Ouais, c'est beau.
Ouais.
On ne les connaît ni d'Ève, ni d'Adam, et ils sont venus se greffer au truc, et ils se sont emparés du truc. Et ça, pour moi, c'est un gage de réussite, vraiment, c'est de se dire, t'as fait quelque chose qui a été utile, qui a apporté des choses aux gens, hommes comme femmes. Et je trouve ça cool. Et on a donc on a cet endroit dans lequel on les fédère. On a le club des gentilshommes, donc qui est le Discord dont tu parlais au début.
C'est un endroit formidable.
Ouais.
C'est... ouais. Où genre on adore passer du temps.
Très attendu dessus.
Et on adore passer du temps. C'est assez ouf parce qu'on passe des heures dessus. Hein.
Mais c'est vraiment génial. C'est génial. Et ça continue. Hier soir encore, j'y étais. Je suis passé sur le vocal parce qu'ils se font
des
trucs
aussi.
Vocaux. Et ils continuent le débat. Et ils parlaient. Tu vois, hier soir, le sujet c'était. Tu vois la question. Il y a un mec qui est venu.
L'infidélité.
Non, il est venu en disant, il demandait est-ce que c'était une bonne approche de draguer une meuf si dans ta première phrase c'était un compliment.
Très bonne question. Ouais.
Et en fait, tu vois, et ils sont parlé, ils ont échangé, et il y a eu des discussions, il y a des filles, des mecs et tout le monde, et ça parlait là-dessus. Et je trouve ça génial d'avoir réussi
c'est
à créer
génial
ça.
D'avoir fédéré ça, c'est ouais. Incroyable.
Et ça, c'est le truc le plus.
Il y a beaucoup de blagues sur Dan qui n'est jamais là.
Ouais, plein de choses. Je comprends pas parce que moi, je suis toujours là-bas, donc je suis tout le temps connecté.
C'est pas dans le bon Discord, je sais pas.
Ouais, je crois que c'est pas le même.
Okay.
Et il y a aussi une autre satisfaction, c'est d'avoir réussi à faire ça avec eux deux, en fait. D'avoir réussi à créer un programme qui est de qualité technique. Ça, c'est grâce à Mitch qu'on salue.
Ouais. Et qu'on embrasse.
Ouais.
Qui est
reparti
tu verras, tu l'entendras que Mitch n'est pas là. Et on a fait un truc régulier qui était de qualité, qui a apporté des choses aux gens. Éditorialement, c'était intéressant. Donc, c'est quelque chose qui nous... on s'est auto-tiré vers le haut. Et je trouve ça cool d'avoir réussi à faire ça pendant 6 ans sans rater les rendez-vous, sans... Enfin, d'avoir réussi à organiser le truc. Moi, je suis vraiment hyper, hyper fier, hyper satisfait de ce programme. Et on le finit en beauté, puisqu'on l'arrête bien. On l'arrête à un moment où les épisodes sont toujours cool.
Ouais.
On est au top. Les gens, ils sont là. Ils auraient aimé que ça continue. Nous, on arrête pour des raisons de voilà, notamment de fatigue. Mais tu vois, on n'arrête pas parce que ça y est, on commence à perdre en qualité. On se dit, ouais, les épisodes, ils commencent à être un peu nazes et tout.
Ouais,
les derniers épisodes, ils
ne
sont pas nazes du tout. Hein. Ils sont vachement bien. On est toujours... toujours pimpant là-dessus, mais du coup, je trouve que c'est un beau projet qui se tient bien et on espère que, enfin, moi, j'espère en tout cas que ça donnera la possibilité aux gens de prendre ça comme exemple. Parce que même si, effectivement, on se posait des questions et tout, à la base, on est des gens lambda. Et tu vois, Connie, il s'est posé la question, quand les médias, ils disent que tous les mecs sont des violeurs, il se dit, putain, est-ce que je fais partie, est-ce que je suis un violeur? Et, si Connie a été capable de se poser des questions, moi aussi, et Dan aussi, de se poser des questions, tous les mecs qui écoutent, ils peuvent se poser des questions, en fait. C'est facile de dire c'est l'autre et tout, mais en vrai, non, on peut commencer par soi. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, c'est juste l'exemple qu'on a montré. Et on espère que ça peut dire aux autres de faire pareil, quoi.
Canon.
Oui. Et maintenant, le podcast est fini, donc on peut enfin pécho, quoi.
Exactement.
C'est un appel aux 250 invités. Contactez Dan 06.
C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est vrai que c'est hyper
bon.
Un petit mot de la fin. Alors, je rejoins. Alors, je veux dire aussi ce que Pascal a dit. Toucher des gens, ne serait-ce qu'une personne, la toucher sincèrement avec quelque chose qu'on fait de façon authentique, c'est d'une riche. C'est la plus belle des récompenses qui existent sur cette planète. Peut-être faire des mômes aussi, c'est pas mal aussi. Mais bon, c'est notre histoire. Dans une expression artistique, enfin, c'est pas vraiment une expression artistique, mais c'est une expression. C'est, c'est la plus grande, c'est une satisfaction incroyable. Donc, il a quasiment tout dit, donc je vais dire autre chose. Moi, dans ma vie, je me souviens des 10 fois où j'ai eu les plus gros fous rires.
Ouais.
Et je me souviens avec qui c'est. Et il est pas dans le top 5, mais il est dans le top 10. dans l'épisode, dans le podcast, un des plus gros fous rires. Pascal, c'est quel moment?
Attends, mais oui, t'as eu un fou
rire. Moi, je m'en rappelle pas.
Bah oui, toi, tu te souviens pas, c'était sûr de toi qu'on rigolait.
Et ah ouais?
Mais bien sûr, c'est la fois où il explique à l'invité, il nous explique comment on fait pour masquer des petites amies hors dehors du couple avec des numéros. Et ce qu'il nous a dit, c'est génial, c'est inoubliable.
Ah oui,
il nous a dit, en fait, je mets pas le numéro de la fille, je mets
SNCF.
Donc en gros, à 22h, il y a le téléphone qui sonne. Écoute, chérie, excuse-moi, c'est la SNCF qui m'appelle.
Ah, oui, mais vraiment,
j'ai rigolé pendant deux minutes, j'arrivais plus à respirer.
Enfin,
c'était incroyable, incroyable.
Malin.
Pas malin. À 23h, tu reçois un texto avec marqué SNCF. Je suis désolé. Ta meuf, elle est. Je te dis,
tu peux avoir le service client.
Service client, tu sais, c'est délocalisé.
Appel, non, mais franchement, un service
SMS,
client,
voilà,
Orange, ça peut être la
chacun
facture.
Moi, franchement, oui, bien sûr,
c'est la facture.
C'est un énorme sourire. On a rigolé. Mais
ouais, et moi, j'ai pas rigolé tant que ça, parce que pour moi, c'était juste normal. C'était genre normal, donc je comprenais même pas pourquoi il rigolait, quoi.
Du coup, je sais plus si c'était la vraie réponse à ça pour vraiment être le plus fort possible, c'est d'avoir de la mémoire en fait. C'est-à-dire que quand il y a un numéro qui arrive, il faut se dire ah ça c'est le numéro de Mélanie. Non, c'est un faux numéro ma chérie.
Mais sinon tu peux mettre inconnu.
C'est
aussi,
pas moi qui l'ai, c'est pas toi qu'on a appris.
Inconnu, mais nom d'un pote.
Oh, il balance.
Bah nom d'un pote.
J'ai cru que tu te foutais de ma gueule.
Nom d'un pote, le problème c'est que il a déjà.
C'était tu te foutais de ma gueule.
Oui, ça fait.
Ah non, même pas.
Ouais. Non, c'est vrai.
Ah, je suis désolé.
Ouais, mais sinon moi j'avais mis inconnu ou un truc comme
oui,
ça.
Très bien, c'est pas mal aussi.
Oh merde.
Malin.
Elles ne coûteront peut-être pas jusque là, ça ira.
Non, mais c'est pas grave.
Ok, donc ça c'était le mot de la fin, le fou rire.
Oui, ouais, des moments formidables et voilà.
Franchement, ouais, c'était vraiment aussi le fait de se retrouver.
Ouais.
Des fois, on avait quand même ce truc, c'était souvent le dimanche, on avait un peu la flemme, mais c'était trop bien comme moment. C'était des moments où on rigolait, on rencontrait des gens, c'était intéressant. Et puis on avait le plaisir aussi de pouvoir tchatcher dans le micro pendant des heures. Et moi, c'est vraiment un truc que j'adore faire et que
c'était cool.
J'imagine toi aussi, puisque tu fais pareil.
Carrément.
Non, mais c'est trop cool. C'est une super expérience.
Ouais, c'est une belle expérience.
J'invite tout le monde à écouter les 250 épisodes.
Ouais, et puis à les partager, parce qu'en vrai, ils sont toujours d'actualité. On aborde toujours des sujets où tu peux le partager. Si tu as envie de parler de fidélité avec ta copine ou quelqu'un, tu lui envoies l'épisode.
Si tu veux les bonnes techniques de Dan aussi.
Ouais,
exactement.
Pour les auditeurs et auditrices, donc je pense qu'il y aura des auditeurs et auditrices de chez vous. Il y en aura aussi des mes auditeurs et auditrices qui connaissent peut-être pour certains pas. Et je voulais jouer avec eux, faire un petit jeu, parce qu'on se parle pas mal sur Discord ou en DM. Je vais vous donner 3 affirmations vraies que j'ai écouté dans vos épisodes.
Oh là là.
Et venez me voir en DM pour me dire ça correspond à qui.
D'accord.
Qui a, vous savez, donc taisez-vous.
Donc nous on sait.
Ah bah vous savez forcément.
Nous on sait.
Qui a été réformé P4 au service militaire?
Ah.
Qui a écrit le livre Les Possédés, publié en 2019? Qui a inspiré des parents à tel point qu'ils ont baptisé leur enfant avec son surnom?
C'est vrai que pour nous, c'est facile.
Pour nous, c'est assez simple.
Donc, moi, j'ai trop envie que vous veniez me dire qui a été réformé.
Qu'est-ce qui gagne alors
gagner,
qu'est-ce qui gagne?
Franchement, un de mes livres. Il m'en reste quelques-uns.
Ah ouais,
je l'envoie dédicacé.
Oh, attends, c'est trop bien.
Attends, je vais gagner le jeu.
Ah, et waouh, Pascal, vraiment. J'ai l'impression d'être au téléachat.
Trop bien.
Pascal va sortir le... C'est le nom définitif?
Juste réponse de mec, réponse de meuf.
Voilà, réponse de mec.
Le jeu, ouais.
Réponse de meuf. Trop le bien. Jeu, il est là, j'ai le proto qui est pas tout à fait terminé, mais quand il sera terminé, il y en aura avec le bouquin.
Ouais, ok. Ouais.
Ok.
Je t'en
trop bien.
Avec le bouquin.
Si un jour tu fais ton dernier épisode, c'est nous qui venons t'interroger pour le dernier.
Ça serait ouf.
Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Je vais faire une réponse à la Dan. Alors, moi, tu sais, vraiment, en ce moment, l'écologie, c'est un délire. Ouais. Merci.
Merci, à toi.
Merci à toi.
Trop bien, merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.